Bonsoir à tout le monde, Amy Webster à l'appareil. C'est pour le programme Le Cru en 30 jours. Et ce soir est la troisième téléconférence d'une série de cinq. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre donc troisième conférence. Aujourd'hui, c'est le lundi 6 mai 2013 et nous allons traiter du module 3 du programme. Voilà, j'espère que vous êtes nombreux ce soir à écouter. Je regarde rapidement sur mon moniteur, je vois que vous êtes 4 personnes à écouter. J'ai lancé l'enregistrement, ça c'est tout bon. Ainsi, les personnes qui ne sont pas là ou qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard pourront aussi écouter le contenu de cette téléconférence. Voilà, je pense que tout va bien. Je demanderai à ceux ou celles qui sont en ligne de peut-être, en tout cas une personne, m'envoyer un petit message pour me dire que vous m'entendez correctement. Comme vous le savez, ça, c'est toujours très rassurant de savoir que le son passe bien. Alors, j'attends juste encore un petit instant avant de recevoir un petit mot. Voilà. Parfait. J'ai reçu un bonsoir, Amy, et Sylvie qui dit bonsoir en route avec vous tous. Très bien. Formidable. Merci. Alors, on y va. Donc, ce soir, le sujet de la soirée, ça va être la vie pratique. Hein, comme pour vous rappeler un petit peu le programme, comment ça se structure. La première semaine, nous sommes concentrés sur l'observation, mettre des choses en place, observer un petit peu notre manière de manger, prendre des décisions sur la manière dont on aimerait manger, se fixer des objectifs pour ces 30 jours de cru et essayer de voir un petit peu comment on fonctionne et comment on pourra mieux fonctionner. C'était vraiment une mise en place qui est très importante. Hein. On aurait très bien pu choisir dans un programme de ce genre de se lancer directement dans le vif du sujet, mais je crois que cette première semaine est très très importante pour mettre les choses en place, autant d'un point de vue organisationnel que d'un point de vue mental. Et c'est, en général, ça va beaucoup plus facilement pour la suite si vous avez fait ces exercices de la première semaine. Alors, pour ceux qui viennent en cours de programme, d'ailleurs, je voulais souhaiter la bienvenue à Francine qui s'est rejointe en groupe samedi dernier. Je ne sais pas si elle sera à la conférence ce soir. Je n'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui de sa part et je n'ai pas vu encore sur le forum. Donc, il est possible qu'elle soit encore à un stade d'essayer de s'organiser. Elle a reçu toutes les informations. Alors, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne pouvait pas, mais elle aura accès à toutes ces téléconférences et j'espère qu'elle pourra se manifester sur le forum parce que quand on prend le programme en cours de route, il est bon de pouvoir bénéficier du soutien des autres pour essayer de se mettre vite dans le bain. Voilà, mais c'est vrai que cette première semaine avait été importante pour mettre les choses en place. La deuxième semaine, on a regardé un petit peu l'organisation. Donc, c'était là qu'on a mis en place les menus hebdomadaires, la mise en place de rechercher des recettes, d'essayer d'inclure de la variété dans son alimentation quotidienne, de décider de quand on mange, de qu'est-ce qu'on préfère manger, à quel moment de la journée, si on mange seul ou avec notre entourage ou des membres de la famille, etc., si on mange à la maison ou dehors, et d'essayer de planifier tout ça, vraiment en prenant un petit peu de recul, en étudiant aussi le matériel qui a été fourni lors du module 2, pour essayer d'avoir les outils pour mettre ça en place. Voilà. Donc, vous êtes à la moitié du programme, vous avez tous commencé à faire des expériences, les recettes qui vous sont fournies, les fiches d'information, les fiches pratiques qui vous aident dans un domaine ou un autre. Maintenant, on en arrive à ce que j'ai appelé la vie pratique. La semaine prochaine, on parlera de vie sociale. La vie sociale, c'est-à-dire comment faire avec ceux qui ne mangent pas cru, sortir au restaurant, voyager. On en a parlé brièvement déjà, mais là, on va vraiment se plonger dans ce sujet et essayer d'approfondir un petit peu les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer à essayer de maintenir un régime le plus cru possible, le plus propre possible, le plus digeste, enfin vraiment le régime qui nous convient et qui va nous donner la forme qu'on recherche. Et cette semaine, donc, le sujet, c'est vraiment la vie pratique. On va regarder la cuisine, comment s'organiser dans la cuisine, comment s'équiper et faire en sorte que manger cru devienne quelque chose de facile. Alors, je répète ce que j'ai dit à chaque téléconférence, à savoir que il faut toujours un petit peu d'effort, un peu de volonté, un peu de la détermination, bien entendu, et tout ça, ça va découler avant tout du fait d'avoir exprimé nos désirs, nos souhaits, voilà où j'aimerais en arriver, que ce soit à la fin de ces 30 jours ou bien par la suite. Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie et pourquoi je me suis inscrite à ce programme? C'est pour essayer d'accomplir un certain nombre de progrès. Donc vraiment de se fixer des objectifs et d'être sans arrêt en train d'essayer de se mesurer par rapport à ces objectifs et d'observer constamment en pleine conscience là où je suis ici et maintenant. Qu'est-ce qui m'est arrivé la semaine qui s'est écoulée? Qu'est-ce que je souhaite voir arriver dans ma vie la semaine qui vient? Les petites choses que j'aimerais corriger, les nouvelles choses que j'aimerais mettre en place, les choses que j'ai expérimentées qui ont bien marché pour moi, que ce soit une nouvelle recette, un nouveau jus, ou le fait d'avoir préparé un smoothie pour l'emporter avec moi au bureau ou en déplacement, peu importe la nouvelle pratique que vous avez essayé de pratiquer, qui vous a convenu et que vous voulez continuer à pratiquer. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui commencent maintenant à se mettre ensemble, à se compléter les uns les autres, à essayer de créer ce nouvel équilibre qu'on essaie de mettre en place. Alors la vie pratique est très importante. C'est un petit peu son environnement. Là, on ne parle pas d'alimentation, on parle vraiment de l'environnement, sans parler de l'environnement social, mais vraiment l'environnement physique qui nous entoure. Alors, pour cette soirée, ça va se dérouler comme précédemment, à savoir qu'on va directement traiter de ce module. Je vais dire juste encore quelques mots sur ce qui s'est passé cette semaine, un peu les échanges et puis les sujets qui ont été traités, les progrès réalisés, quelques mots sur ça. Ensuite, on va parler de ce module numéro 3 et enfin, traiter les questions. Alors, n'oubliez pas d'envoyer vos questions, que ce soit par le biais de la fenêtre. Enfin, à présent, ce sera le seul biais d'ailleurs qui est valable. C'est vraiment remplir les petites questions par la fenêtre qui est exposée sur le site sur lequel vous m'écoutez. Sinon, vous avez tous les jours la possibilité de téléphoner. Si vous souhaitez le faire, envoyez-moi un petit message pour dire « j'aimerais bien téléphoner pour poser ma question ». Auquel cas, quand j'aurai lu le message, je vous dirai « alors allez-y, vous pouvez appeler, vous suivrez les instructions qui ont été fournies sur le numéro à téléphoner, à appeler, le code d'identité de la conférence qu'il faut fournir, et puis de lever la main en pressant étoile 2, sur votre téléphone ». Voilà. Sinon, on continue comme on l'a fait jusqu'à présent. Et juste pour préciser, il y a deux thèmes. Une question assez importante que j'ai d'ailleurs préparée pour ce soir, qui a été posée par Rosemary. C'est Marie-France qui a posé une question sur le taux d'acidité dans le corps. Très, très bonne question et un thème qui vaut la peine de se pencher dessus pendant un petit moment. Donc, le fameux équilibre acide-alcalin dans le corps et comment l'alimentation peut influencer ça et qu'est-ce qu'on va chercher à réaliser et comment faire. Voilà, donc ça, on va traiter de ça en tout cas une bonne quinzaine de minutes quand on aura parlé du module 3. Et puis, j'ai vu qu'il y avait encore quelques petites questions qui ont été posées par Aurore sur le site, sur le forum. Donc, je retournerai voir exactement. Il me semble qu'elle a posé une question sur la fermentation et puis les recettes pour des enfants. Alors, voilà. Alors, on parlera de ça. Et puis, j'espère que vous aurez encore d'autres questions. Hein. Profitez. C'est votre. Cette téléconférence, c'est vraiment pour vous. Elle sert à deux choses. Elle sert à expliquer ce module qui, évidemment, peut être lu comme ça de manière tout à fait autonome. Et peut-être que ça suffirait comme ça, mais j'aime bien pouvoir vous expliquer, vous apporter des petites anecdotes et puis insister sur des points qui me paraissent un petit peu plus importants que les autres. Donc voilà un petit peu l'objectif, vous exposer ce module afin que vous puissiez baigner vraiment dans tous ces principes-là qu'on couvre dans le module, que toute cette semaine vous essayez d'appliquer un certain nombre de ces principes exposés dans ce module et que vous puissiez poser des questions par rapport à ça, mettre en pratique, voir ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, essayer de pratiquer les exercices qui vous sont proposés. Voilà, ça c'est l'objectif. Comme ça, la semaine 3, c'est la vie pratique. Et donc, la deuxième partie de la téléconférence, les questions-réponses. Profitez-en, c'est ce que je vous dis. Hein, c'est vraiment votre plateforme. C'est l'occasion d'obtenir des réponses à vos questions. Vous avez cette occasion toute la semaine durant. Mais là, c'est un ensemble de questions. On est tous focalisés ensemble, ce qui crée une très, très belle énergie. Donc, voilà, tout ça, c'est pour vous. Alors, voilà, on va tout de suite passer aux quelques remarques que je voulais faire donc sur le forum. Je voulais partager avec vous, j'ai reçu un très très beau témoignage de Robin qui a eu une expérience intéressante. J'espère qu'elle va trouver la possibilité de le mettre sur le forum. Elle ne l'a pas encore fait, mais après avoir mangé cru pendant plusieurs jours et elle a participé à une formation, elle a expliqué qu'elle avait une aura particulièrement forte et plus importante que celle des autres participants. Et ça, c'était un travail en énergie. Alors, il n'y a peut-être pas tout le monde qui ça ne va pas résonner avec tout le monde, ce genre de concept d'aura ou d'énergie qui va, comment dire, briller d'une personne qui mange cru. L'expérience de Robin ne m'étonne pas, parce qu'effectivement, le plus on mange cru, le plus on a une certaine lumière, on a une énergie qui va radier de nous, une énergie qui est beaucoup plus pure, qui est beaucoup plus paisible et qui est beaucoup plus ancrée. Et donc l'expérience de Robin est intéressante et j'espère qu'elle va la partager avec vous, que vous puissiez voir exactement qu'est-ce que le cru peut, comment le cru se manifeste chez les personnes qui vont manger davantage de cette manière. Aussi Sylvie qui a lancé une conversation sur les progrès, enfin comment elle se sent après ces 2 semaines. Et elle a parlé un petit peu de la digestion, etc. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs questions pratiques hein, sur les recettes, la quantité, la manière de conserver, etc. On a parlé du fait que, par exemple, la recette du pâté soleil, effectivement, les ingrédients donnent une quantité assez importante de pâté. Comment faire? Alors là, je répète, je veux attirer votre attention sur le fait que c'est vrai que beaucoup de ces recettes peuvent avoir des quantités trop importantes. Alors, on ne peut pas avoir vraiment une norme pour tout le monde parce que vous êtes soit seul à la maison, soit vous êtes juste en couple ou à 2 personnes ou en famille. Donc, vraiment, il faut essayer d'adapter à vos besoins. Est-ce que vous êtes dans une grande famille, mais vous êtes peut-être la seule personne à manger cru? Donc, il n'y a pas une mesure pour tous. Mais ce que moi je recommande, c'est quand vous faites une recette, en tout cas pour la première fois, faites-en la moitié, si c'est faisable. Hein. On ne va pas faire la moitié d'un smoothie. Là, je pense que instinctivement, vous allez réduire les quantités de fruits ou de liquides si vous n'en faites que pour une personne. Un lait végétal, par contre, faites-en 1 litre parce qu'en 2 jours, en 3 jours, vous l'aurez bu et il tiendra les 3 jours. Il suffit de boire 3 décis par jour et puis bon, c'est vite parti. Mais pour les recettes comme du pâté, les soupes aussi, quelquefois, vous allez en avoir trop. Donc, ce serait mieux d'essayer de n'en faire que la moitié. Déjà pour voir si c'est une recette qui vous plaît et que vous n'ayez pas tout à gaspiller. Mais aussi pour voir si ça donne des trop grandes quantités et vous n'allez pas pouvoir les garder. Donc, voilà, ça c'est mon conseil, de n'en faire qu'une partie. J'aurais dû vous le préciser avant, je l'ai peut-être mentionné, je n'étais pas sûre, je ne me rappelle pas vraiment tout ce que je dis durant les téléconférences, mais voilà, c'est pour ça que je le rappelle ce soir. La quantité, ça c'est important, la conservation, hein, sachez, on le répète à nouveau, que les plats crus ne se conservent pas très très longtemps, donc mieux vaut faire ce que vous allez manger le jour même ou les 2 jours qui viennent, à moins que ce soit des plats qui ont été déshydratés. Alors là, c'est vraiment un mode de conservation qui va vous permettre de garder les mets pendant beaucoup plus longtemps. Hein. Ça peut aller jusqu'à 2-3 mois. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. On a eu des questions sur quel repas servir à des personnes qui n'ont jamais mangé cru, des novices, par exemple. Et j'ai parlé de la pizza, qui est vraiment une recette phare que j'ai souvent servie à des personnes qui mangeaient cru pour la première fois. Et cette pizza, eh bien, on va la décortiquer cette semaine. Parce qu'il faut plusieurs étapes. Il y a la base à pizza qui, elle, se fait de manière déshydratée. Donc, c'est vrai qu'il y aurait besoin d'un déshydrateur, mais dans le cas inverse, si vous ne l'avez pas encore, alors utilisez votre four à chaleur tournante pour cette première expérience. Ce ne sera peut-être pas concluant, mais normalement, si vous faites attention, ça devrait pouvoir marcher. Mais surtout, il y a ces autres ingrédients qui rentrent dans la pizza crue, à savoir le fromage de noix de cajou, la sauce tomate, et puis la manière de monter tout ça. Et aussi une autre petite technique qui est très intéressante, qui consiste à faire mariner des légumes et les déshydrater par la suite. Ou alors, là, vous pourrez effectivement utiliser un four à la plus basse température. Quand on fait mariner des légumes, on met pas mal de liquide. Alors, il est bon de pouvoir essayer de se débarrasser de cet excédent de liquide et de concentrer les saveurs par un séchage. Donc, on va parler de ça de cette semaine, c'est-à-dire ce seront les recettes que je vais vous donner tous les jours afin d'arriver en fin de semaine à pouvoir construire et monter une pizza. Et donc, ça vous donnera de la matière pour, par exemple, recevoir des invités le week-end prochain, week-end d'Ascension d'ailleurs. Je commencerai mardi, demain, par la recette de la base à pizza, parce que ça, c'est la première affaire. Il faut d'abord faire germer des graines de sarrasin, qu'on va ensuite mélanger avec d'autres ingrédients et déshydrater. Vraiment, si vous les faites, par exemple, cette recette sera donnée demain, si vous vous arrangez pour avoir du sarrasin demain et commencer à germer du sarrasin, ça vous permettra déjà mercredi soir de faire la recette, faire déshydrater. Jeudi, vous faites les autres les autres ingrédients qui rentrent dans cette recette. Et puis, pour le week-end, vous pourriez prévoir cette fameuse pizza crue dont je vous assure qu'elle est vraiment extraordinaire. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore cette semaine? Oui, une très belle discussion sur les orties. J'espère que j'ai vu qu'il y avait en tout cas de personnes qui avaient eu l'occasion de tester les orties dans des jus, dans des smoothies. Sachez que vous pouvez aussi les utiliser en salade. Dès le moment où on les lave et on les coupe hachées, le piquant, le fameux piquant de l'ortie disparaît complètement, surtout si vous les mélangez avec des ingrédients en salade, etc. Alors, faites ça sans crainte. Sachez toutefois que pour cueillir les orties, on va choisir les feuilles supérieures, les feuilles les plus jeunes. Ce sont celles qui sont les plus tendres et qui sont les moins amères. Et comme toujours avec les jeunes pousses vertes, on va chercher ce qu'il y a de plus tendre. Ça nous amène autant de nutriments que le reste, sinon plus. Et ce sera bien plus agréable à manger. Voilà pour les orties. De quoi avons-nous encore parlé? Il y a eu quelques recettes déshydratées, mais pas seulement. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai partagé une recette qui est bien de saison, un velouté d'asperges. Donc, n'hésitez pas à utiliser des asperges crues, que ce soit pour les manger comme ça, de manière croustillante. On les croque comme des carottes. C'est vraiment délicieux. Mais assurez-vous qu'elles sont très fraîches, parce que si les asperges ont été cueillies il y a quelques jours, ou voire même une semaine et entreposées, alors leur contenu en fibres va augmenter, ces fibres vont devenir de plus en plus sèches. Le contenu naturel de l'asperge, son contenu en humidité, lui, aura baissé et elle sera nettement moins bonne en bouche. Donc, c'est vraiment comme ça que je vous conseille de manger les asperges, que ce soit donc à les croquer ou bien pour les mettre dans une soupe, comme il est proposé dans la recette. Bon, on va passer à ce module 3 sur la vie pratique. Alors, la cuisine, évidemment, ça va être le sujet de notre module. La cuisine, c'est votre environnement. C'est l'environnement dans lequel vous allez pouvoir exercer votre alimentation crue. C'est celle où vous allez réaliser vos mets. Alors, il faut s'assurer que la cuisine soit vraiment là pour vous soutenir dans vos choix et qu'elle puisse vous inspirer, qu'elle soit bien organisée, qu'elle soit propre, que vous puissiez trouver tous les ingrédients qu'il vous faut. Bref, ça fait vraiment une partie intégrante à votre planning et à la mise en place de cette alimentation crue. Il faut qu'elle puisse vous donner envie de cuisiner et qu'elle vous facilite cette fameuse cuisine. Alors, dans le module, je vous explique, il y a deux scénarios. Quand vous rentrez dans votre cuisine, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des choses qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'aller de l'avant? Ou bien au contraire, est-ce que la cuisine est plutôt envahie? Est-ce qu'elle est désorganisée? Est-ce qu'elle est envahie par des objets, des ingrédients, des aliments qui ne vous inspirent pas? S'il y a de l'alcool, s'il y a une machine à café, s'il y a des restes de repas cuits, une casserole pleine de pâtes, enfin, si le frigo est plein de viande, enfin, c'est pas pour dire videz votre frigo de tous ces aliments-là, c'est pour vous dire prenez la place dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un certain espace, c'est important. Si vous êtes dans une famille nombreuse ou si vous partagez votre habitation avec d'autres personnes qui ne participe pas avec vous à cette alimentation, alors une petite discussion et d'essayer de simplement demander que vous avez besoin de votre espace, que vous en êtes à vos premiers pas peut-être, que vous avez besoin d'un tout petit peu de compassion, de patience, de tolérance de la part des autres qui puissent vous laisser votre espace pour que vous puissiez fonctionner à votre aise. C'est très important ça, que les choses soient déjà bien, bien claires pour tout le monde. Parfois, ça peut aller jusqu'à partager un frigo, hein, que vous ayez votre étage pour pouvoir y mettre tous vos ingrédients, le tiroir à légumes, réservé rien que pour les légumes. C'est un peu le cas chez moi d'ailleurs. Il y a sur un étage dans le frigo, il y a des sauces et des ingrédients que je n'utilise jamais. On a trois tiroirs en bas du frigo, mais il y en a un pour les fromages. Et puis les sauces en tube que je n'utilise jamais et que mon mari et ma fille utilisent. Et moi, j'ai deux tiroirs. Dans un tiroir, je mets tout ce qui est feuilles vertes, bien emballées, bien protégées. Dans un autre tiroir, je mets tous les légumes, racines, etc. Donc, voilà, ça facilite quand même beaucoup l'organisation, hein, d'avoir quelque chose comme ça. Pensez à, quand vous rentrez dans votre cuisine, et ça c'est l'exercice que je vous recommande de faire cette semaine, prenez un petit moment, une de ces soirées, ou quand vous en avez le temps, pour vraiment vous poser toute seule dans votre cuisine, dans votre environnement, là où vous cuisinez, et de regarder autour de vous, et de vous poser les questions suivantes. Quelle ambiance règne dans cette pièce? Est-ce que j'aime y passer du temps? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour aimer y passer du temps? Qu'est-ce que je peux transformer? Quelles sont les énergies qui se dégagent de cette pièce? Est-ce que c'est un endroit où j'ai envie d'aller, où je me ressource, ou bien au contraire, est-ce que c'est un endroit où j'ai plus le sens de devoir faire à manger pour le reste de la famille? On y mange, et puis souvent c'est là qu'il y a des conflits de famille qui se déroulent, etc. Alors qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus vraiment le cas, pour que le moment de la préparation du repas soit un moment qui soit qui soit épanoui, qui soit rempli de belle énergie, pour que le moment de la prise du repas le soit aussi. C'est très très important. Ce sont nos sentiments, nos humeurs, enfin l'énergie qu'on apporte à tout ça, c'est aussi important que l'aliment sur lequel on va travailler. Donc, quelles sont les énergies qui se dégagent et quelles sont les envies que m'inspire ma cuisine? Donc, quand j'y rentre, est-ce que je me dis, oh là là, c'est trop compliqué, j'ai vraiment envie de faire cette recette crue, mais où est mon extracteur à jus? Oh là là, il est loin derrière, enfin, ou quelqu'un l'a bougé, ou je ne l'ai pas mis à la bonne place, ou je n'ai pas de place et chaque fois je dois le sortir d'une armoire. Alors, c'est vrai, si vous avez une petite cuisine et que vous n'avez pas vraiment le choix, alors il faut trouver des manières ingénieuses de mettre tout ça à disposition. C'est pas si difficile. Et si c'est votre cas et que vous avez des difficultés, alors dites-le sur le forum. Et je suis sûre qu'on aura des idées à vous proposer. Moi, j'ai vu sur Internet des cuisines de crudivores organisées sur très très peu d'espace. Et c'était très ingénieux, en superposant, en créant des espaces plutôt dans la verticale que dans l'horizontale, en pendant des paniers au mur. On peut poser des choses sur le frigo, sur d'autres espaces. Enfin, c'est vraiment très ingénieux ce qu'on arrive à faire dans peu d'espace. Par contre, si vous avez l'espace, alors c'est magnifique. Mais bon, l'espace que vous avez à disposition n'est peut-être pas tout l'espace de la cuisine. Donc, voilà, ce sont les questions qu'il faut se poser. Où est-ce que je peux mettre mes ingrédients, mes appareils, etc. sans pour autant envahir les autres. Hein. Restons corrects, mais prenons l'espace que nous méritons. C'est ça le but. Alors, l'autre chose qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je peux organiser ma cuisine pour rendre mes choix alimentaires plus faciles à réaliser, hein. Quels sont mes gestes quotidiens? Alors, tout ça va découler du travail qu'on a fait la semaine passée, puis que j'espère vous continuez à faire, hein, c'est le but. Quand vous avez établi votre menu hebdomadaire, vous savez que, bon, bah, par exemple, demain, j'ai prévu de manger du pâté soleil à midi, et j'ai prévu de préparer mon pâté ce soir ou demain matin. Peu importe, vous vous serez posé la question dimanche déjà, est-ce que j'ai des graines de tournesol? Bon, bah très bien. Ce soir, puisque je vais faire le pâté demain matin, bon, bah très bien, je l'ai noté sur mon menu hebdomadaire que ce soir, j'allais mettre 2 tasses ou une seule tasse de graines de tournesol à tremper toute la nuit. Ainsi, demain matin, je vais les rincer et je vais préparer mon pâté soleil. Alors, ce qui est bien, c'est que votre robot soit à disposition, que ça vous prenne un minimum de temps. Vous vérifiez au frigo que vous avez bien les autres ingrédients, le citron, le persil, l'oignon, et que tout ça, ce sera très très rapide à rassembler afin que vous puissiez faire votre recette très vite, nettoyer les instruments, les appareils quand vous avez fini, mettre votre pâté au frigo pour quand vous allez le manger, ou alors c'est l'heure du repas et vous allez le manger tout de suite. Voilà, c'est un petit peu ça. Il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai à faire et comment je procède? Quels sont mes gestes quotidiens? Quels sont les gestes que je pratique tous les jours, et peut-être quels sont les gestes que j'aimerais davantage pratiquer, parce que j'ai peut-être l'habitude de faire d'autres choses et maintenant justement j'aimerais faire davantage de jus, davantage de smoothie. Alors qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus facile? Alors parmi ce qu'on peut mettre en place, évidemment, c'est des idées telles que la station à jus, hein. La station à jus, c'est un concept qui est bien installé, et l'idée est, c'est ce qui est un petit peu chez moi, j'ai ma machine à jus qui est tout le temps là, elle est posée sur mon bord de fenêtre. Bon, vous savez que j'ai une grande cuisine, donc c'est vrai que c'est un privilège d'avoir cet espace, mais quand même, je me suis posé les bonnes questions pour savoir où poser mes instruments. Donc mon extracteur à jus, il est tout près de mon deuxième lavabo. J'ai deux lavabos, j'ai un grand lavabo et j'ai un deuxième lavabo accessoire, plus petit, mais qui me sert justement à rincer mes légumes rapidement avant de les poser sur le plateau qui, lui, est juste à côté de ce deuxième évier. J'ai toujours mon grand couteau en céramique qui est posé sur le plateau, toujours. J'arrive donc, le flux, les gestes sont très simples. Quand je vais faire mon jus, je me dirige d'abord vers le frigo, je retire les aliments, les différents fruits et légumes que je vais utiliser. Je vais à l'évier, je vais les rincer, je les pose sur le plateau. À côté du plateau, j'ai toujours un grand bac qui va réceptionner le compost. Je vais donc couper mes aliments, éplucher s'il faut, enfin couper les morceaux que je ne vais pas mettre dans la machine à jus. Tout de suite, je les pose dans le bac à compost et je commence à faire mon jus. La machine est là, c'est tout prêt, le bol qui va réceptionner le jus est là. C'est parti, je fais mon jus. Quand j'ai terminé, tout de suite, je vais nettoyer la machine. Je la démonte, je vais tout de suite rincer, enfin enlever tous les déchets qui sont restés, la pulpe qui est restée collée, mettre tout ça dans le compost. Ensuite, je rince la machine, je la laisse sécher pour la prochaine fois. Et voilà, c'est presque terminé. Vous voyez, les gestes se sont succédés, tout était sous la main. Une autre station possible, c'est si vous faites beaucoup de smoothies. Alors c'est aussi mon cas. J'ai en fait mon extracteur de jus et juste à côté, j'ai mon blender, mon Vitamix. Et au-dessus de l'évier, il y a une étagère sur laquelle figure d'ailleurs le micro-ondes que je n'utilise jamais, mais je dois bien vous avouer qu'il y a un micro-ondes. À côté du micro-ondes et au-dessus du micro-ondes, il y a une étagère où j'ai mis des bocaux avec tout ce que je mets dans mes smoothies, les fameuses poudres, les super aliments par exemple. C'est là que j'ai aussi ma poudre de cacao, j'ai ma poudre de maca, j'ai ma spiruline, j'ai ma poudre verte, enfin mes algues bleues vertes. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai mes graines de chanvre décortiquées. Elles sont toutes là. Mes graines de chia aussi. Donc, peu importe ce que je vais utiliser dans mon smoothie, c'est juste au-dessus. Je prends une grande cuillère, je prends les différents ingrédients que j'ai décidé de mettre, j'y rajoute des fruits. Je vais prendre un lait végétal où je mets de l'eau. Et voilà, le tour est joué. Donc, vraiment, tout ça, ça fait partie de cette possibilité de faire des plats comme ça en 5 minutes, sans trop réfléchir. D'ailleurs, l'aspect réflexion, effectivement, va devenir de plus en plus simple au fur et à mesure que vous avancez. Excusez-moi, je m'arrête 2 secondes pour boire de l'eau. Alors, la station à jus, la station à smoothie, le coin à germer, ça c'est aussi intéressant. Si vous avez décidé de vous lancer dans la germination, alors il faut essayer de consacrer un certain espace aussi à vos bocaux et choisissez de préférence un endroit dans votre cuisine où les graines germées auront une exposition au soleil qui est indirecte, mais où il y aurait de la lumière. On sait que les premiers jours, alors, vaut mieux recouvrir. Moi, je ne déplace pas mes pots. Je les laisse toujours au même endroit. C'est mon bord de fenêtre, à la lumière. Mais les premiers jours, je recouvre avec un linge de cuisine. Comme ça, je crée quand même une pseudo-obscurité pour permettre à la graine de mieux lancer sa germination. Par contre, au bout de 2 jours, j'enlève ce linge et. Pour l'alfalfa, c'est magnifique parce que la lumière et le soleil, qui est quand même indirect, c'est pas un soleil direct. Il y a un moment dans la journée où il y aura du soleil direct, mais ce sera pas parfait. C'est ce qui va permettre aux pousses d'alfalfa de synthétiser la vitamine D, de synthétiser la chlorophylle, pardon, et de vraiment devenir verte. Donc, à quel endroit vous allez mettre votre coin à germer? De préférence aussi pas loin de l'eau, parce que ça, faut bien y penser. C'est peut-être même plus important de mettre ça près de l'eau que la machine à jus, parce que là, tous les jours, vous allez rincer vos graines. Donc, vraiment, mieux vaut les garder juste à côté. Certaines personnes gardent leurs petits bocaux, mais vraiment dans l'espace où on fait la vaisselle et on laisse égoutter la vaisselle, bah, au même endroit, vous laissez égoutter vos bocaux de graines germées qui sont à l'envers, en train d'égoutter dans l'égouttoir, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Voilà. L'autre chose, c'est de vous demander, mais quels sont les aliments que je veux privilégier? Et si c'est les fruits et légumes, alors est-ce qu'ils sont visibles? Est-ce que quand vous entrez dans votre cuisine, vous avez des bols, des plateaux avec vos fruits? Parce que la plupart des fruits, en fait, se conservent à température ambiante. Évidemment, toutes les agrumes, enfin les oranges, les citrons, les pamplemousses. Mais surveillez-les quand même parce qu'ils risquent de sécher, alors surtout s'ils sont au soleil. Par exemple, les citrons, au bout d'une semaine, ils vont se mettre à sécher, ce qui est vraiment dommage. Si vous avez un citron qui a bien séché, qui est devenu très dur, sachez que pour en extraire plus de jus, il faut le rouler. Poussez bien à la main, vous roulez votre citron. Il va se ramollir et en le ramollissant comme ça, entier, vous verrez que vous allez en extraire beaucoup plus de jus. Mais il faut essayer de ne pas les garder trop longtemps dehors. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à garder un certain nombre de citrons dans le frigo et puis ceux que je vais utiliser, je les laisse dehors. Mais je ne vais pas en garder 6 ou 10 dehors. Ils risqueraient de sécher. Les bananes, très important de les laisser dehors parce qu'elles ont besoin de mûrir, de développer ces petites taches noires qui sont la preuve qu'elles ont bien mûri et que les sucres complexes sont devenus des sucres simples, beaucoup plus digestes et surtout, le goût sera beaucoup plus agréable. Les pommes, les poires aussi, elles ont besoin de mûrir, hein. Souvent on les achète, elles sont trop dures. Si vous les avez laissées plusieurs jours à température ambiante, comme ça posées sur un plateau ou dans un panier, elles vont devenir bien, bien meilleures. Les kiwis, c'est pareil. Bon, par contre, les petites baies, alors ça, bien sûr, on les garde au frigo, elles sont beaucoup plus fragiles. Mais les ananas, les mangues, de nouveau, dehors. Alors moi j'ai toujours un grand plateau, ça m'inspire quand je rentre et je vois tout ça. Ah, j'ai envie de ça aujourd'hui, j'ai envie de me faire un jus à ça ou un smoothie à ça. Et les enfants c'est pareil. Aujourd'hui rentrant de l'école, à ma fille j'ai découpé une mangue, une banane et une poire. Elle était ravie. Voilà, c'était son 4 heures. Elle a adoré. C'est une grande assiette, c'est un bon 4 heures. Alors voilà, donc quels sont ces aliments que vous voulez privilégier? Alors c'est important qu'ils soient présents et visibles. Hein. Faut pas oublier que notre attention et nos actions vont se focaliser sur ce qui est visible et ce qui est accessible. Donc il faut agir en conséquence. Alors, l'exercice d'organisation qui figure dans le module, hein, que j'ai expliqué, c'est d'essayer de poser un regard neuf sur votre espace de vie et votre cuisine, de constater si cet espace est encombré, désorganisé, est-ce que cet espace est en adéquation avec vos intentions, avec vos désirs, et est-ce que cet environnement risque de vous freiner dans votre évolution. Donc, il faut faire un ménage intelligent et réfléchi et prendre les décisions qui s'imposent, décider qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour que ça aille encore mieux. Parce que peut-être que ça va très très bien, il y a peut-être une toute petite chose que vous pouvez faire pour que ça aille encore mieux. Profitez de cet exercice aussi pour faire le ménage dans vos armoires, hein, le frigo, le congélateur. Un petit nettoyage de printemps, ça fait pas de mal. C'est l'occasion aussi de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de se débarrasser des produits qui sont périmés, d'éliminer tout ce qui est vieux, apporter des nouveaux ingrédients, des ingrédients frais, refaire des stocks. Hein, c'est l'occasion de refaire vos stocks avec les aliments qu'on privilégie dans la préparation des repas crus. Et surtout, ces ingrédients qui vont soutenir vos choix, mais aussi, pas seulement vos choix, parce que n'oubliez pas que dans votre parcours cru, en parallèle, vous pourriez très bien mener un parcours pour la famille qui se veut être un parcours plus sain. Donc, ça ne voudra pas dire qu'ils vont manger forcément cru, hein, que ce soit votre époux, votre partenaire, votre épouse ou les enfants, mais peut-être que c'est l'occasion de commencer à introduire plus d'aliments sans gluten, de remplacer les pâtes par des pâtes sans gluten, par exemple. De diminuer les produits laitiers, de commencer à acheter du fromage de chèvre plutôt que les autres fromages, même pour le reste de la famille. Parce que c'est pas qu'une question de goût, peut-être que pour eux, ils se sentent pas le besoin de passer au cru, ils sont en pleine forme, ils estiment qu'ils peuvent tout manger comme le fait tout le monde, mais petit à petit, ça peut être bien de faire passer un message sur l'alimentation saine, et on sait aujourd'hui qu'énormément de maladies se développent après de nombreuses années d'avoir mangé trop de viande, trop de produits laitiers et trop de produits à base de gluten. Donc ce sont vraiment les trois domaines où il serait bon de soit remplacer, soit diminuer, soit les deux. L'idéal, ce serait les deux, n'est-ce pas? Donc il faut y aller au rythme qui vous convient, au rythme qui convient à votre famille. Mais donc quand je parlais des ingrédients qui conviennent au cru, pensez aussi à ces ingrédients que vous n'avez peut-être jamais utilisés jusqu'à présent, que ce soit le beurre d'amande pour remplacer la crème, que ce soit l'avocat pour remplacer le beurre. D'ailleurs, l'avocat remplace même la mozzarella dans une tomate mozzarella. Mettez des tranches d'avocat au lieu des tranches de mozzarella. Ça fait une très jolie salade et l'avocat a cette matière grasse qui est tout aussi agréable en bouche que du fromage de mozzarella. D'autres manières de remplacer, j'essaie de penser à d'autres ingrédients de base, au niveau du pain, de prendre un pain qui est peut-être cuit au feu de bois, des pains plus complets ou des pains qui ont été cuits avec, ou des pains à l'épeautre par exemple, d'utiliser de l'épeautre plutôt que du blé, enfin voilà. Vous connaissez déjà, je pense, la série de choses, d'ingrédients qu'on peut remplacer dans la cuisine de tous les jours pour avoir une alimentation plus saine. L'autre chose qu'il est intéressant de mettre en place dans sa cuisine pour créer un environnement qui nous inspire, c'est vraiment vos petits outils pour bien fonctionner. Donc moi, j'appelle ça un peu mon poste de travail. Alors, c'est pas un endroit particulier, mais c'est vrai que dans ma cuisine, qui est très grande, c'est vrai, je le répète, il y a beaucoup de choses que j'ai dans ma cuisine, à part bon, mes recettes, mais j'ai mes livres de recettes dans ma cuisine. J'ai mes classeurs avec toutes mes recettes qui sont bien organisées, ce fameux classeur que je vous encourage à créer et développer au fur et à mesure de ce programme. Mais pas seulement, j'ai toujours un calepin, j'ai toujours de quoi écrire. Très souvent, j'ai mon ordinateur ou un iPad et c'est là que je visionne des vidéos de recettes, que je prends des notes. Parfois, je suis en train, je m'engage et je suis pendant une ou deux heures à faire des préparations dans la cuisine, alors j'écoute des téléconférences. Ou bien j'écoute de la musique, donc c'est pratique d'avoir dans la cuisine ces instruments qui vous permettent d'écouter des fichiers audio ou de la musique pour vous inspirer. Mais aussi, par exemple, des affirmations. Moi, j'affiche des messages sur mon frigo ou je les affiche ailleurs, sur les murs, etc. Des messages qui m'aident sur ma voix ou des petites références qui vont aussi m'aider, que ce soit une liste d'ingrédients qui me convient en ce moment ou que ce soit une liste de mes recettes favorites pour me rappeler quand je manque de temps, je manque d'inspiration, je regarde cette liste, je me dis « Ah oui, j'avais fait ça la semaine dernière, en ce moment, c'est ce granola avec poire, chia, chanvre, voilà ce qui me plaît en ce moment. » Et comme ça, je me rappelle si je manque d'inspiration. Qu'est-ce que je mets d'autre? Des belles images, des posters, des pense-bêtes, des choses comme ça. Je sais que dans mon classeur aussi, je vais toujours retrouver mes menus, les menus d'autrefois. Et quand, à nouveau, quand je manque d'inspiration, je me replonge dans des menus que j'ai faits l'année dernière. Quelquefois, ce sont des menus que je vais organiser par saison. Alors, je me suis bien concentrée sur le cru l'hiver passé. Voilà que j'arrive au printemps, j'ai un peu relâché. Alors, je vais regarder quel genre de menu j'ai mangé au printemps l'année passée ou il y a 2 ans. Et là, ça me redonne des idées, ça me redonne envie. Je trouve que toutes ces choses-là sont vraiment très, très pratiques. Et c'est ce qui contribue à me donner toujours cette envie de continuer et d'aller toujours plus loin. Mes intentions, la liste d'ingrédients, évidemment, j'ai aussi... ça c'est un cadeau de ma fille quand elle était en enfantine. Je pense que beaucoup de mamans ont ça aussi, ce genre de support, de bloc-notes sur lesquels on peut noter les courses à faire. Enfin voilà, c'est tout autant de jolis objets pour s'entourer et puis faire en sorte que la cuisine soit un endroit où on peut être heureux et épanoui. Voilà tous ces petits messages magiques. Alors cette semaine, je vais lancer sur le forum une nouvelle conversation qui va s'intituler « Comment puis-je améliorer ma cuisine et mon environnement ?» et j'espère que vous serez nombreux à y contribuer. Je fais un rafraîchissement des commentaires. Alors, je vais lire, j'ai pas fini sur le module 3, mais je vais lire les petits commentaires qui viennent parce que je trouvais ça sympa. Oui, on vous écoute. Alors, une question purement pratique, est-ce que le site du forum reste après les 30 jours, va-t-il disparaître? Oui, c'est une très bonne question. Je devrais peut-être lire les questions après pour pas trop mélanger concernant les graines de tournesol. Oui, je vais attendre. Comme ça, on arrête sur le sujet de la cuisine et puis je vais vous répondre à ces questions. Très bonne question. Alors voilà, on continue sur la cuisine et l'environnement, la vie pratique. Alors les machines et les accessoires, ça c'est un grand sujet. Alors je ne vais pas y aller trop en détail, je vais juste dire rapidement ce qui pour moi constitue l'outillage important qui m'aide, mais tout n'est pas indispensable. Par contre, si vous avez des questions particulières, moi je vais traiter de l'une ou de l'autre chose dont j'ai vu que souvent c'était des questions assez récurrentes. Si vous avez des questions sur ce que je dis, alors tu peux les réserver et vous n'hésitez pas à les poser là en fin de téléconférence. Voilà, donc les machines et les accessoires pour nous aider sur le cru, sur ce chemin du cru, sont un luxe, pas une nécessité, mais vraiment très très utile. Alors particulièrement pour les gens pressés, les gens qui travaillent, qui ont peu de temps à consacrer à la préparation des repas, sachez que ce sont des investissements qui sont absolument merveilleux parce que ce sont ces machines qui vont vous permettre de faire toutes ces recettes et de les faire vite, vite et bien. Elles sont chères, c'est vrai, selon les machines. Un Vitamix, c'est quand même dans les 740 francs suisses, donc c'est pas rien, c'est pas donné. Mais il existe aussi des bons filons. Je sais qu'en France, durant les 2 dernières éditions, il y avait une participante qui avait donné le site l'adresse d'un site en France où on pouvait trouver des machines de seconde main en France, en Suisse aussi, des Ricardo.ch ou même eBay qui existe dans le monde entier. J'ai connu des gens qui ont acheté leur machine à jus ou même un Vitamix d'occasion sur eBay et qui en étaient vraiment très très contents. Sachez, les Vitamix sont pas faciles à trouver de seconde main parce que la plupart des gens qui possèdent un Vitamix ne le revendent pas, mais c'est pas exclu que ça arrive. Et sachez que vous pouvez acheter ça en seconde main en toute quiétude parce que ce sont des machines qui bénéficient de 7 ans de garantie, donc qui sont d'une telle qualité que c'est pas un problème de les acheter de seconde main. Alors parmi les accessoires importants, pour moi, le premier c'est une planche en bois et des bons couteaux. Alors j'utilise des couteaux en céramique parce qu'ils n'oxydent pas la matière que l'on découpe. J'aime beaucoup les utiliser, je trouve qu'ils sont beaucoup plus légers à tenir en main, ils coupent mieux, j'en suis devenue tellement habituée que maintenant si je prends un couteau en métal dans les mains, ça me paraît très lourd et j'ai pas la même agilité. Donc les couteaux que je vous recommande, c'est ceux de la marque Kyocera. Alors vous avez vu que la liste que je vous ai fournie la semaine dernière d'ingrédients que j'achète auprès de Kunzvital, ils ont ces fameux couteaux Kyocera que moi-même j'ai achetés aux États-Unis. Mais je sais qu'en France vous pouvez aussi les trouver. Si vous avez un problème pour les trouver, n'hésitez pas à faire appel à moi et je pourrais faire un peu de recherche à vos côtés. Mais sinon, vous savez que vous pouvez en trouver chez Ikea. Ils sont certainement pas aussi bien. Ils sont nettement moins chers. Vous pouvez en acheter 3 pour quelque chose comme 50 francs. Au lieu que ce soit 50 francs pour un petit et puis 100 francs pour un grand. Donc la différence de prix est aussi assez, assez notable. Mais je possède les deux. J'utilise parfois ceux d'IKEA ou je dis au reste de la famille d'utiliser ceux-là pour qu'ils ne les abîment pas parce qu'ils sont très fragiles. Mais ces couteaux d'IKEA marchent aussi bien. Ils sont plus lourds. Donc, ils sont moins agréables en main. Ils sont plus lourds. Mais c'est aussi de la céramique. Donc, pour l'aspect antioxydant, enfin l'aspect qui n'oxyde pas, contrairement aux lames en métal, c'est une bonne chose. Il faut savoir aussi qu'ils sont affûtés, ils tiennent plus longtemps. Hein, on n'a pas besoin de les aiguiser aussi régulièrement. Alors, parmi les autres outils, une mandoline pour couper en fines tranches, bien sûr des saladiers, des bols. Moi, j'ai tendance, quand je mange seule, je ne mange pas dans une assiette. Je prends un bol de la taille idéale et puis je le remplis de ce que je veux manger et je mange directement dans le bol. J'ai aussi acheté des couverts en bois. Quand je voyage, j'ai toujours une paire de couverts en bois avec moi dans mon sac que je peux sortir au gré de mes besoins. Les bocaux et les bouteilles en verre, ça je vous en ai déjà parlé, de préférence avec fermeture bien hermétique, enfin des bouchons vissés ou bien des fermetures à clips. Des boîtes en plastique, genre Tupperware, avec des compartiments et aussi des couverts qui se clipsent. Ça donne des boîtes qui sont vraiment bien hermétiques et ça permet de pouvoir se déplacer avec des choses humides dedans. Une essoreuse à salade, etc., etc. Mais parmi les machines, alors les trois machines principales, ce sont bien sûr l'extracteur à jus, le robot avec la lame en S et le blender mixeur. Alors une question qu'on me pose souvent, c'est quoi la différence entre un robot et un blender? Alors la différence est quand même assez marquée. Je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, mais très très brièvement, je vais vous rappeler quand même que le mixeur ou blender, on dit blender en américain, mais maintenant on a tendance à beaucoup le dire, même en français, c'est vraiment cet appareil qui a un moteur à la base, un moteur assez puissant, et sur lequel on pose ce bol mixeur qui est plus évasé en haut qu'en bas et qui en bas possède une de ces lames qui tourne, une lame qui ressemble à une lame de moulin à café. Donc ces quatre lames, deux sont plus pointues et dirigées vers le haut et il y en a deux autres qui sont plus plates. Voilà, c'est ce genre de lame qui fait que on mélange des ingrédients liquides et semi-liquides, ou on va faire quelque chose de semi-liquide avec des ingrédients solides, mais plutôt mous. Quoique, avec le Vitamix, on peut mettre des morceaux de carottes, vous serez surpris ce qu'il est capable de faire avec des carottes. Voilà, le blender, le mixeur, il sert à des aliments semi-solides, semi-liquides, et à faire quelque chose qui soit un velouté, un fromage blanc très onctueux, une mayonnaise, ou bien un smoothie, un liquide, un lait. Voilà. Tandis que le robot, lui, il a un contenant très différent, c'est aussi un moteur à la base. Le bol mixeur est un bol qui s'enclenche dessus, qui a plutôt une poignée et qui est, tout droit. Hein, sur les côtés, c'est un bol rond qui n'est pas évasé, les bords sont tout droits. Et dedans, on y place au centre une lame en S. Et l'intérêt du robot, c'est de découper, concasser grossièrement certaines matières. Alors, par exemple, si vous voulez faire une sauce tomate qui est fine comme une sauce mayonnaise, etc., alors vous allez la faire dans le Vitamix. Mais si vous voulez faire une sauce tomate qui a des morceaux de tomates dedans, par exemple avec des morceaux de tomates séchées ou avec des morceaux d'oignons, vous aimez bien avoir une certaine texture dans vos sauces, alors vous ne pourrez pas réaliser ça dans un mixeur, parce que ça va, à moins de le faire tourner juste 2-3 fois grossièrement, mais ce qui marche mieux, c'est le robot. Pareil, je l'utilise aussi pour faire des granolas. Parce que dans le granola, par exemple, je mets des noix et je vais les concasser très, très grossièrement. Le robot vous permet de faire ça parce que vous le faites tourner juste le temps qu'il faut ou bien vous utilisez la fonction pulsation et vous obtenez vraiment le résultat que vous voulez. C'est aussi le meilleur outil pour faire les pâtes à gâteau où on se met justement à moudre d'abord les noix et ensuite on lance des fruits secs dedans qui vont petit à petit s'amalgamer et créer cette texture grumeleuse. Ça, c'est impossible d'obtenir ça avec un mixeur. Vous pourriez utiliser, par contre, pour ça, un extracteur à jus avec un cône à broyer. Seulement, le broyage va se faire de manière très uniforme, ce qui peut être magnifique pour un pâté, par exemple. Mais si vous cherchez à avoir un granola très grossier, alors l'extracteur va vous donner quelque chose de plus uniforme et plus fin. Donc, c'est un peu tout ça. C'est une question de texture. Ça vous permettra aussi peut-être de faire un choix de priorité si vous avez l'intention d'acheter ces machines par laquelle commencer. Alors, posez-vous la question de ce que vous avez vraiment envie de réaliser en premier. Alors, l'autre machine, c'est le déshydrateur. Ça, vous en avez déjà entendu parler. Vous pourriez utiliser un four en un premier temps. Mais sinon, si vous avez vraiment envie de pouvoir commencer à réaliser toutes les recettes déshydratées, alors c'est vrai que ça va devenir important. Alors, tout ça, c'est pour réaliser toutes ces techniques de préparation. Alors, je vais en citer quelques-unes. Si parmi ces techniques de préparation en alimentation, s'il y en a que vous n'avez jamais pratiquées, alors posez la question, on peut en parler un tout petit peu plus. Mais voilà, j'ai un petit peu fait un résumé de tout ce qu'on fait en cuisine avec des aliments crus. Alors, il y a tremper, mariner ou réhydrater. Alors, tout ça, c'est on rajoute des liquides, du liquide à un ingrédient. Tremper, ben, c'est ce qu'on fait avec toutes les noix et toutes les graines avant de les faire germer ou tout simplement pour réactiver leurs enzymes. Mariner, c'est ce qu'on va faire avec des légumes, si on veut faire une ratatouille par exemple, et qu'on va recouvrir ces légumes en partie ou complètement avec une sauce, un liquide, de l'huile, de l'eau, des condiments, etc. Réhydrater, c'est ce qu'on peut faire par exemple avec des fruits secs pour leur redonner leur plein d'eau, que ce soit des abricots ou des dattes, ou parce qu'on veut après le mixer, en faire des confitures, en faire des sauces. Donc voilà, ça c'est rajouter du liquide, c'est tout simple, il suffit d'avoir des bols et de l'eau ou d'autres liquides pour faire des sauces. Germer, alors pour germer, pour faire germer, bien sûr on aura fait tremper, puis après on va rincer et aérer. Autres activités qu'on peut faire, c'est éplucher, couper, hacher, détailler, trancher ou encore râper. Tout ça, ce sont des méthodes pour apprêter les ingrédients avec des outils, que ce soit une râpe, un zesteur, enfin une mandoline pour trancher, que ce soit un petit robot manuel, vous savez ces robots sur lesquels on tape pour hacher un oignon, ou bien tout simplement on va utiliser un couteau et une planche pour faire tout ça. Autre chose, mélanger, combiner, masser. Alors qu'on fasse ça avec des couverts ou avec les mains, quand vous mettez dans un bol tous ces ingrédients que vous aurez au préalable coupés, hachés, détaillés, que ce soit au couteau ou à la machine, vous allez tous les empiler dans un bol, hein. Dans les recettes on dit souvent couper puis mettez dans le bol. Ensuite vous allez vouloir mélanger. Si vous utilisez les mains, vous verrez que vous obtiendrez des mélanges beaucoup plus uniformes, bien plus agréables. Dans certains cas, il est même demandé que vous massiez avec les mains. Alors masser, ça veut dire qu'il faut y aller franchement, ça veut dire qu'il faut serrer avec les mains. Ça veut dire, si vous faites ça avec le chou-plume, hein, cette recette pour masser le chou, toutes les feuilles vertes qui sont très épaisses, très résistantes, c'est en les hachant très fin et en les massant avec du sel et de l'huile, mais très très fort, vous allez sentir la cellulose qui se casse sous la pression des mains. Donc c'est vraiment une action mécanique que vous allez opérer sur ces feuilles vertes. Et c'est ce qu'on appelle masser. Mais sinon, combiner, c'est le fait de vraiment tout mélanger avec les mains. Vous verrez qu'il n'y a rien de plus pratique, il n'y a aucune fourchette au monde qui va être aussi pratique que votre main. Vous avez quand même 5 doigts par main, ça vous fait 10 doigts. Il n'y a aucune fourchette qui vous fournit ça, et aussi avec cette flexibilité qu'on a doit. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais très, très souvent. On peut encore mixer, concasser, broyer, piler avec un de ces bols à piler, hein, avec la masse. Alors avec ce genre d'outil ou avec un appareil. Extraire ou presser, hein, séparer le jus des fibres avec un extracteur à jus, mais aussi avec un tamis. On peut utiliser un tamis pour presser. On peut utiliser un sac à lait. On peut mélanger des choses dans un mixeur, puis tout mettre des choses, donc des fruits et légumes. Ensuite, verser ce genre de smoothie dans un sac à lait et en extraire le jus. Si on n'a pas de machine à jus, c'est une méthode de faire du jus. Déshydrater, sécher, alors ça, effectivement, avec un appareil, c'est pour obtenir des textures croustillantes et mieux conserver les aliments. Et en dernier, fermenter. Bah, fermenter, c'est un ensemble de ces activités, puisque dans la plupart des cas, on va découper, on va laisser tremper, on va rajouter du sel, et puis surtout, on va laisser fermenter dans un milieu qui se veut anaérobie, donc un milieu où il n'y a pas d'air. Il faut être sûr que tous les ingrédients soient bien recouverts, mais on va laisser soit dans un espace bien fermé, soit dans un espace aéré. Ça va dépendre de l'ingrédient à faire fermenter. Et là, il faudra attendre. Et c'est la matière elle-même va se mettre à fermenter si elle a été faite correctement et que les conditions de fermentation sont bien rassemblées. La fermentation se fait dans un environnement d'une certaine température. Donc là, il faudra agir, il faudra choisir l'endroit approprié dans votre cuisine pour faire fermenter. Mais on va reparler de fermentation. Voilà, alors tout ça sont des techniques pour préparer ou conserver, ou des techniques aussi qui servent à prédigérer ou à augmenter la valeur nutritionnelle. Hein, quand on fait des jus, quand on mixe pour obtenir des smoothies, quand on fait germer des graines ou quand on fermente. Tout ça, ce sont des techniques qui permettent de prédigérer. Hein, un jus ou un smoothie sont prédigérés. Tout ce qui est germé est aussi prédigéré et tout ce qui est fermenté est déjà prédigéré. Ça veut dire que tout ce que vous allez manger sous cette forme-là va vraiment augmenter votre performance digestive. Voilà. Donc, est-ce que vous utilisez toutes ces techniques déjà? Quelles sont celles que vous souhaitez introduire pour élargir votre éventail de recettes et d'expériences culinaires et pour essayer d'atteindre cette abondance dont je vous parle depuis le début? Alors, notez celles qui vous intriguent, celles que vous ne pratiquez pas encore et puis essayez de mettre tout ça en pratique. Enfin, le dernier élément de ce module 3, c'est par rapport aux outils de base, bah, c'est ce fameux classeur dont je vous parlais avant. Hein, mais ça peut être plusieurs classeurs, ça va dépendre de la quantité d'informations que vous allez y mettre. Mais dans mon classeur, moi je mets mes recettes préférées, les recettes que j'ai envie de tester, que je n'ai pas encore testées, mes menus, que je garde aussi tout au fond pour consulter quand j'en ai besoin. Je les classe, mes recettes, je les classe soit par saison, soit par catégorie, c'est-à-dire des smoothies, des jus, des desserts, des crackers ou pain, des petits déjeuners, des repas de midi, ça va dépendre vraiment de la manière dont vous fonctionnez. Une chose qui peut être intéressante aussi, c'est d'établir une liste par ingrédients, c'est-à-dire vous avez une recette ou deux qui utilisent des asperges, alors notez sur une liste séparément qu'avec les asperges, vous pouvez faire le velouté d'asperges ou le croquant d'asperges ou je ne sais pas quelle autre recette il y aurait avec des asperges. Parce que le jour où les asperges sont de saison, comme ça vous pourrez très rapidement vous rappeler quelles sont les recettes qui utilisent cet ingrédient. Et ça peut s'utiliser pour d'autres choses aussi, hein, avec les oranges, avec les fruits de la passion, des choses qu'on fait plutôt en hiver, les endives quand elles sont de saison, ou le panais quand il est de saison. Voilà, ça c'est aussi une petite astuce que j'ai trouvée extrêmement utile. Créer aussi ce que j'ai appelé un guide rapide, hein, c'est d'avoir peut-être juste un dossier, parce que four, c'est un mot bien suisse, un dossier dans lequel vous aurez rassemblé vos 10 ou 15 recettes préférées. N'oubliez pas que nous sommes tous des êtres d'habitude et que l'on prépare des repas cuits ou crus. Tout le monde tourne autour d'une dizaine ou d'une quinzaine de recettes qu'on fait, on refait, on refait, jusqu'à ce qu'on en ait assez et on essaie d'en trouver une autre pour la remplacer. Ces recettes-là, gardez-les dans un dossier que vous pouvez consulter très facilement. Moi, j'aime bien les mettre dans des feuilles perforées, des feuilles en plastique perforées, et de les mettre dans un de ces dossiers où on peut les attacher, des dossiers qu'utilisent nos enfants à l'école. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, alors donc voilà pour le classeur, le guide pratique, le guide rapide. Mais dans le classeur, vous pouvez faire aussi un autre classeur qui ne soit pas un classeur recette, mais qui soit plus un classeur fourre-tout, un classeur où je peux ranger la liste des fournisseurs, les commandes que j'ai faites récemment, comme ça je peux suivre un petit peu quels sont les ingrédients que j'achète, que j'ai envie d'acheter, ah on m'a parlé de tel ou tel produit, les informations sur les produits, voilà j'aimerais acheter telle machine et j'ai récolté quelques informations sur cette machine, je peux les ranger dans ce classeur, comme ça le jour où je suis prête à faire cet achat, je sais où trouver cette information. La liste des ingrédients que j'aime bien garder dans mon garde-manger, des ingrédients que j'ai envie de tester, la liste des ingrédients de garde, les ingrédients frais que je me propose d'acheter régulièrement, mais aussi mes ressources, que ce soit les sites, les blogs à consulter, les forums sur lesquels j'aimerais participer, mais aussi les livres, les magazines, les newsletters que j'aimerais de temps en temps lire ou emprunter, les films ou les documentaires que j'aimerais visionner. Tout ça, ce sont des informations, des éléments qui vont me pousser vers l'avant, qui vont me donner plus d'inspiration et me donner plus de connaissances pour mieux pratiquer le cru. Voilà, donc n'oubliez pas non plus, évidemment, votre classeur Le Cru en 30 jours. Vous aurez mis toutes ces informations que vous aurez accumulées durant ce programme pour continuer à vous inspirer régulièrement. Un dernier point, moi je me suis aussi créé un petit dossier qui s'appelle Ma Santé. Et dans ce dossier, c'est là que je garde mes tests sanguins. Mon bilan, si j'ai travaillé avec une naturopathe, un diététicien, où je fais mon propre bilan depuis quelques années, où je note un petit peu les évolutions. Et qu'est-ce que j'ai fait suite au test sanguin? Ah ok, je manquais de B12, donc telle date, j'ai été faire des piqûres en B12, et j'ai décidé sur telle date ou sur telle période de faire certaines cures. Pendant 30 jours, je vais faire une cure de fer ou une cure de magnésium. Alors c'est bien de le noter comme ça, vous pouvez toujours y revenir et savoir un petit peu quel est le chemin que vous avez fait. Et surtout, continuer à exercer cette habitude très très importante de faire un lien entre ce que vous mangez, ce que vous avez pris comme complément alimentaire, les choses que vous avez mis en place, c'est-à-dire votre pratique, vos actions et comment vous vous sentez. C'est ce que j'essaie de vous faire faire avec ces journaux quotidiens et hebdomadaires, mais faites-le aussi sur le long terme, pas seulement sur l'aliment, mais peut-être il y a autre chose qui a changé dans votre vie. Voilà, vous vous êtes mis à faire de l'exercice, vous avez repris un certain rythme dans un exercice physique ou une activité extérieure. Notez-le dans tout ça, c'est un petit peu cette rubrique ou ce classeur « Ma santé, ma forme » dans laquelle vous allez pouvoir remplir tous ces éléments, garder en vue tous ces éléments, y compris les nutriments qui vous manquent. Et ceux auxquels vous êtes intolérants. Je pense que c'était Sylvie qui posait une question aujourd'hui sur l'ail et les oignons. Voilà, à noter, pour le moment, je ne tolère pas bien l'ail et l'oignon parce qu'ils me font tel et tel effet. Ce sera peut-être plus le cas dans 6 mois ou dans 1 année. C'est intéressant de garder trace de tout ça. Voilà. Et pour finir, une petite recommandation, essayez de vous créer des nouveaux rituels tous les jours. Une préparation ou une dégustation, la dégustation d'un jus par exemple, d'une friandise le matin ou avant le souper ou en soirée avant d'aller vous coucher, vous ne voulez pas manger, mais pourquoi pas un tout petit chocolat cru pour se faire plaisir, une tisane. C'est très bon d'avoir des rituels, surtout si c'est des rituels qui vous aident à tenir le cap. Un autre rituel quotidien, c'est se fixer une intention pour la journée, se fixer une intention pour la semaine, avoir certaines inspirations, essayer d'encourager certaines humeurs. Et dans les rituels hebdomadaires, bien entendu, planifier sa semaine, essayer de trouver des nouvelles idées pour aller encore plus loin. Voilà, j'en ai fini avec ce module 3. J'espère qu'il va vous donner envie de faire de nouveaux exercices, de regarder votre cuisine, de penser à mieux vous équiper si c'est possible, que ce soit pour maintenant, pour plus tard. Enfin, à essayer de mettre tout en place pour que vous puissiez avancer dans le sens que vous souhaitez. Voilà, alors je vais rafraîchir toutes les questions, voir ce qui est arrivé et répondre à cette première question qui avait été posée, à savoir, est-ce que le site du forum reste après les 30 jours ou va-t-il disparaître? Alors, ce que j'ai fait pendant les 2 dernières éditions, c'est que le site est resté encore pendant 30 jours, donc un bon mois. Donc à part le premier mois que vous avez suivi, il va de toute façon rester disponible pendant un mois. En tout cas, c'est possible que je le laisse encore plus longtemps. Pour les prochaines éditions, je suis en train de mettre sur pied ou de réfléchir à faire un site spécialisé qui ne soit pas un site par la plateforme Ning, mais plutôt qui soit un site qui soit rattaché à mon propre site. Donc, si je fais ça, c'est pas exclu. J'aimerais viser l'idée de toujours garder que ce soit un site sur lequel s'accumulent toutes les conversations. Mais vous avez vu ce qui s'est passé pour cette édition. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les conversations de l'édition précédente pour que vous puissiez aller aussi voir ce qui s'y passe. Parce que quand on fait une édition et que finalement il y a moins de personnes, comme c'est le cas cette fois-ci, avec on est 13 participants cette fois-ci, avec 13 participants, il y a moins d'échanges. Et selon, il peut y avoir aussi des cours où il y a 13 participants qui sont très actifs et d'autres où il y en a 20 qui sont moins actifs. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de rajouter des conversations des précédentes éditions, mais ça a créé un peu de confusion pour certains membres cette fois-ci, donc c'est pas toujours une bonne idée. Donc c'est clair que quand je commence une nouvelle édition, en général, j'efface toutes les conversations précédentes. Et puis j'aimais bien l'idée de quand même fixer un délai pour vous encourager à aller visiter cette matière et à avancer. Mais rien n'est décidé, ce sera en tout cas un mois, sinon plus. Voilà la réponse à Sylvie. Donc ne pas vous inquiéter, ce sera le dernier jour, vous n'aurez pas, vous serez pas forcé d'aller tout télécharger et puis d'avoir tout lu. Ça permet aussi aux personnes qui ont commencé plus tard d'essayer de se mettre dans le bain maintenant avec ce qui se passe maintenant en direct, mais de revenir après pour revisiter certaines parties du programme. Je pense que ça peut s'avérer vraiment très utile. Alors, Amy, concernant les graines de tournesol germées, j'ai mis une photo sur le site, il faudrait que j'aille voir. Comment débarrasser la cosse noire sans abîmer la pousse? Ah oui, ça c'est pas facile. Hein. Faut-il attendre que la feuille soit plus grande? Bon, c'est vrai qu'en poussant un peu plus, et puis alors elles sont bonnes quand elles sont déjà environ, disons, pas plus que 5 cm, hein, voire plus petits. Moi, j'ai aussi cultivé des graines, des pousses de tournesol dans un bocal. Donc évidemment, elles étaient toutes mélangées et même, toutes entourées les unes sur les autres. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais avec les autres pousses, j'utilise une essoreuse à salade. Je les verse dans l'essoreuse à salade avec le panier, bien sûr, dans le bocal en plastique. Je remplis d'eau et je secoue tout ça très fort. Et c'est vrai qu'en secouant, déjà, on se débarrasse d'une partie de ces fameuses cosses noires. C'est le même principe avec les graines d'alfalfa où il y a énormément de petites graines qui n'auront pas germé. Hein. Et donc, en faisant ça, on réussit à les éliminer. On arrive aussi avec la main, plus ou moins, à tenir les pousses vers le bas. Et en général, les cosses, elles remontent à la surface. En tout cas, les petites graines d'alfalfa qui n'ont pas germé, elles remontent à la surface. Et on peut les attraper un peu, c'est comme d'aller avec une épuisette. Hein. Moi, je prends un petit, une petite passoire et j'arrive à en ramasser la plus grande quantité. Alors, les cosses noires, sinon, il faut y aller avec les doigts. Hein. Il faut les tirer avec les doigts. C'est un peu fastidieux, mais non, je ne connais pas d'autre solution. Hein. C'est un petit peu embêtant, mais ma foi, c'est la seule manière. Quand elle est plus grande, oui, c'est vrai que la feuille plus grande, la cosse aura peut-être plus de facilité à tomber, mais il y en a qui poussent bien et la cosse, elle reste comme ça accrochée sur la feuille. Donc voilà. Bon, l'avantage, c'est que par rapport à l'alfalfa, ce sont des pousses qui sont quand même plus grosses, un peu plus épaisses, que c'est toute fine jeune pousse d'alfalfa, donc c'est un peu plus facile à traiter avec les doigts. Encore une fois, ça fait partie de ces gestes où on prend l'habitude. Bon, qu'est-ce que, ah, j'en ai manqué une. Il y avait marqué une constatation personnelle. Au plus on mange cru, au plus l'envie de sucre diminue. Merci d'avoir partagé ça. C'est vrai. Si vous êtes encore certain à douter de cette capacité de vous désintoxiquer du sucre, de vous éloigner du sucre, bah, sachez que le plus vous mangez cru et le plus cette envie de sucre diminue. Absolument. Et c'est vrai pour le sucre, comme c'est vrai pour tout ce qui est à base de gluten, pour tout ce qui est cuit, pour tout ce qui est très gras, très riche en sauce. Et l'envie de viande et de poisson va diminuer. Vous allez vraiment de plus en plus vous diriger vers des aliments de choix, de qualité et en petite quantité. Et c'est magique, n'est-ce pas? C'est vraiment ça qu'on recherche. Alors, encore une question. Pour gagner de la place, il y a ces pots à germer qu'on peut superposer l'un sur l'autre. Je pense que c'est Carole Dougou qui propose cela. Absolument. Merci d'avoir dit ça. Ce sont les pots que j'utilise. J'en ai de 3 litres, 2 litres, 1 litre. Et effectivement, ce sont des pots en plastique qui ne sont pas arrondis, mais ils sont bien, ils ont des côtés octogonaux. Je pense que oui, ça doit être ça, c'est octogonal, parce qu'il y a 4 grandes faces et 4 petites faces, qui fait que les bocaux peuvent s'empiler les uns sur les autres. Alors ça peut être très très pratique, même si vous en avez deux grands, de les mettre côte à côte et puis dessus empiler les plus petits, ou simplement deux grands, empiler l'un sur l'autre. C'est vrai que c'est un gain de place et que c'est vraiment très très pratique. Avez-vous une expérience avec les sacs à germer? Bien sûr, oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par expérience avec les sacs à germer? Moi, j'utilise les sacs à germer pour germer, alors oui, je ne l'ai peut-être pas encore mentionné, les graines de sarrasin. Pour moi, le sac à germer, c'est vraiment la meilleure manière de faire germer les graines de sarrasin. Parce que les graines de sarrasin, elles s'agglutinent. Si vous les avez fait tremper toute une nuit, ce qui est vraiment le premier geste à faire quand on veut faire germer, n'est-ce pas? On les fait tremper toute une nuit dans un sac, dans un de ces sacs à germer. C'est un sac qui ressemble vraiment à la toile moustiquaire. Ça va être plus épais que le sac à lait, qui lui est beaucoup plus fin si on veut avoir un lait très fin. Et donc ce sac à germer, vous mettez vos graines de sarrasin dedans, vous laissez tremper tout ça dans un bol avec de l'eau. Le lendemain, vous versez l'eau, vous rincez bien ces graines et vous accrochez le sac afin que l'eau vraiment puisse s'égoutter. Et ces graines, alors il est bon de les de temps en temps de les vous passez vos mains et vous essayez de les décoller les unes des autres parce qu'elles vont vraiment devenir très c'est pas gélatineux mais presque. Ce ne sont pas des mucilagineux comme les graines de lin ou les graines de chia ou celles de les graines de rucola par exemple, qui elles vraiment vont s'agglutiner. Et celles-ci, on ne peut les germer que dans un petit germoir spécial ou contre une toile, un morceau de coton, etc. Elles ont besoin de s'accrocher à quelque chose pour grandir. Les graines de sarrasin, non. Mais il faut pouvoir les désagruter, enfin faire en sorte qu'elles les décoller les unes des autres. Et pour ça, le sac est vraiment parfait. En soirée, on les rince à nouveau, on les égoutte à nouveau et chaque fois, moi, je passe et j'essaie de les décoller les unes des autres. Et ça marche très bien. Et au bout de 2 jours, vous allez voir une petite pousse qui sort et puis vous les laissez dans le sac et elles vont sécher toutes seules. Moi, je l'ai fait ce week-end et là, j'ai une grande quantité de graines germées, de graines de sarrasin germées et séchées que je mets dans des yaourts, que je mets dans des salades. Enfin, je fais différentes choses avec. Et puis après, je vais aussi les déshydrater pour qu'elles se conservent très bien. Sinon, il faudrait les conserver soit à l'air ambiant quelques jours, soit au frigo. Donc, l'autre expérience avec les sacs à germer, c'est pas une bonne idée pour les petites pousses comme les pousses d'alfalfa parce que vous imaginez bien que si elles se mettent à germer dans le sac, elles vont s'accrocher au maillon du sac et elles sont très difficiles à désincarcérer, si l'on peut dire. Donc ça, c'est pas une bonne idée, il vaut mieux utiliser des bocaux. Vous voyez, la germination, c'est vraiment l'art de choisir le bon outil pour la bonne graine, tout comme certaines graines ont besoin d'eau plus tiède ou plus fraîche, de tremper plus longtemps, moins longtemps, etc. Donc commencez avec les plus simples et vous pourrez avancer. Le sac fonctionne très bien aussi avec les légumineuses, comme par exemple les lentilles ou les haricots mango. Ça marche bien. Bien que moi, je préfère la technique des assiettes pour les légumineuses, parce que je trouve que ça va plus vite. Le fait d'être vraiment dans l'obscurité totale permet à la lentille ou au haricot mango de se développer plus vite. C'est aussi le cas avec les pois chiches. qui par contre ont besoin d'être trempés très très longtemps. Il y avait quelqu'un qui a fait l'expérience et effectivement ça c'est très important. Alors je vais tester avec le panier à salade, merci, voilà, très bien. Donc ça c'est bien, c'est qu'on continue à m'entendre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les sacs à germer, ensuite. C'est très cool Amy de laisser le site disponible, merci. J'avais dans l'idée de vous demander si vous n'aviez pas envie de créer un site forum permanent. Oui, alors à ce propos, il existe déjà un forum permanent. Je pense que certains d'entre vous, mais Sylvie, je crois, mais peut-être pas tout le monde, j'ai créé un site il y a déjà 3 ans de cela qui s'appelle Manger cru en Suisse romande. Alors c'est un site qui est public, il est ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'à la base, je l'avais créé pour les personnes qui viennent suivre mes cours. Et vous savez que parallèlement, j'ai aussi créé un programme qui s'appelle La Cuisine en ligne, qui consiste en une démonstration par vidéo de toutes les recettes de mes 3 cours, auxquelles vous savez que vous avez accès à ce produit à 50%. Je ne sais pas si je vous ai précisé ce qu'il fallait faire pour l'acheter. Excusez-moi si je me répète, mais si vous vous intéressez à acheter La Cuisine en ligne, il vous suffit d'aller sur le site qui s'appelle La Cuisine en ligne, tout ça collé, lacuisineenligne.com. Cette page est la page d'achat de ce produit et la page d'accès au programme une fois que vous l'avez acheté. Et si vous voulez en savoir plus, bah sur cette page, il y a un endroit qui est dit pour en savoir plus, vous cliquez dessus et ce lien va vous amener sur mon site où il y a la page de description qui va vous dire exactement tout ce qu'il y a, toutes les recettes qui sont montrées sur ces vidéos, etc. Je pense que ce serait un programme qui vous serait vraiment très très utile. Même les personnes qui viennent au cours achètent ce programme parce que ça leur permet de revoir les recettes qu'elles n'auront pas bien retenues. Et surtout, il y a plus de recettes en ligne que celles que je fais en cours. Parce que même mes cours qui durent 6 heures, on ne fait qu'une dizaine de recettes. Alors que pour chaque cours, il y a une quinzaine de recettes dans les brochures. Donc, bref, beaucoup de recettes qui sont démontrées en vidéo. Et si vous voulez l'acheter, vous allez sur cette page de vente qui s'appelle lacuisineenligne.com. Vous cliquez sur acheter. Pour le moment, le programme qui, le prix normal est 197 francs. Il est actuellement à 147, mais si vous allez l'acheter, au moment de payer, vous remplissez sous la rubrique code promotionnel. Vous pouvez mettre le mot morge en lettres majuscules. Il me semble que je l'ai dit dans un email, mais voilà, au cas où si c'était pas le cas, bah voilà. Vous avez tous accès à ce programme à 50% du prix. Ça veut dire pas 97, mais 98 francs 50, qui est exactement 50% du prix. Normal. Voilà, pour 98 francs 50, vous avez accès à 43 vidéos. Je pense que c'est vraiment très, très intéressant. À faire maintenant ou plus tard, hein. C'est une offre qui reste tout à fait permanente, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 année. Et c'est un site qui va rester là très longtemps, bien entendu. La question qui était envie de créer un site forum permanent. Donc, le forum qui s'appelle « Manger cru en Suisse romande sur la plateforme Ning ». Je prends note de vous le mentionner dans l'email de demain, forum Manger cru. Figurez-vous qu'il y a à présent plus de 100 membres. Donc, c'est un forum, il n'est pas très, très actif, mais il y a quand même des échanges intéressants. Il y a des grands sujets de conversation. Alors, vous aurez de la facilité à partager sur ce forum parce que c'est un forum Ning, c'est-à-dire c'est le même type de plateforme que ce qu'on a fait ici, mais version très simple, c'est-à-dire il n'y a pas toutes ces pages comme on a sur notre forum Le Cru en 30 jours, il n'y a pas les pages recettes, les pages documents, bien sûr, parce que c'est pas un programme payant où il y a énormément d'informations qui sont diffusées. Par contre, il y a ce forum où vous pouvez créer une conversation, poser des questions, et sachez que quand il y a des questions qui se posent sur ce forum, je vais toujours y répondre. Et les personnes qui participent à la cuisine en ligne ont la possibilité de poser des questions directement en dessous des vidéos sur le programme La Cuisine en ligne quand ils y ont accédé. Mais ils ont aussi la possibilité d'aller sur le forum Manger cru en Suisse romande. Et donc, il y a des personnes qui sont venues à mes cours et des personnes qui ont acheté La Cuisine en ligne. Tout comme il y a des personnes qui ont participé au cru en 30 jours qui vont poser des questions. L'autre chose que j'ai créée, et là, c'est uniquement pour les personnes qui ont participé au cru en 30 jours, c'est un groupe Facebook. Alors, le problème avec le groupe Facebook, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui utilise Facebook. Et dans les éditions précédentes, il y avait toujours 2-3 personnes, voire plus, qui sont contre Facebook, qui n'ont pas de compte et qui n'avaient vraiment pas l'intention d'en créer un. Donc, pour ces personnes-là, j'ai dit, alors, allez sur le site, le forum Manger cru en Suisse romande, parce que là, vous pourrez toujours bénéficier d'un soutien de ma part. Mais le groupe Facebook est assez sympa. C'est aussi, quand on est habitué à Facebook, c'est vraiment très, très pratique parce que on pose des questions facilement, on peut partager des photos, des choses plus facilement sur une plateforme Ning. Donc, c'est plus convivial comme plateforme. Donc, voilà. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes ces questions-là. Je vais en venir à ces grands sujets. Voilà, oui, je viens de rafraîchir, j'en ai pas vu d'autres. Ok, alors on va passer à cette question qu'a posée Rosemary. Alors, non, je dis toujours Rosemary, mais je me trompe, il s'agit de Marie-France, désolée. Donc Marie-France, Marie-France a posé la question, qu'en est-il de l'alimentation crue et du taux d'acidité dans le corps? J'ai lu qu'un certain nombre de graines oléagineuses, des légumineuses, dont les lentilles que j'adore en graines germées, et pas mal de légumes crus, les tomates, entre autres, si précieuses pour les recettes d'été, favorisent l'acidité. J'ai déjà un terrain à tendance acide et des articulations facilement douloureuses. Pouvez-vous me donner quelques informations à ce sujet? Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur le niveau d'acidité dans le corps, l'équilibre acido-basique. Basique, quand on dit quelque chose d'alcalin, c'est quelque chose de basique hein, qui va augmenter le pH, tandis que tout ce qui est acide va le baisser. Alors, comme vous savez, hein, le pH, c'est la mesure du niveau d'acidité. Le pH, ça veut dire potentiel d'hydrogène. Parce qu'en fait, le pH est une mesure qui va permettre de mesurer la quantité d'oxygène qui circule dans notre sang. De manière très simple. On va essayer de schématiser, de rendre ça très très simple. Quand le sang est trop acide, il ne parvient pas à faire circuler assez d'oxygène. Il transporte pas assez d'oxygène. Tandis que quand le sang est trop alcalin, il transporte trop d'oxygène. Et pour obtenir cet équilibre idéal pour le corps et la santé, il nous faut un pH qui soit neutre et qui se situe environ entre 7 et 7,5. Ça, c'est l'idéal. Et l'idéal, c'est même 7,35. Voilà. Donc ça, c'est l'échelle des degrés du pH qui va de 0 à 14. 7, c'est le neutre. Quand on est le plus proche de 0, de 0 à 7, c'est un pH qui est acide. Et de 7 à 14, c'est un pH qui est alcalin. Alors, comment savoir quel pH on a? Parce que il y a ça aussi, hein, on peut penser qu'on a un terrain très acide. La seule manière de savoir, c'est de mesurer son pH. Alors, vous pouvez acheter en pharmacie ces petites languettes de pH. C'est très, très bon marché. Vous pouvez en acheter une petite, ça vient dans une petite boîte. Ça coûte, je ne sais pas moi, c'est moins de 10 francs, c'est peut-être 5 francs, je ne me rappelle plus du tout, mais c'est en tout cas très bon marché. Et vous en achetez une cinquantaine de languettes. Et ces languettes, ce sont des languettes qui sont préfabriquées avec différents carrés de couleurs différentes, qui sont très très passées, enfin très très pastel. Hein. Ce sont des couleurs très très neutres quand vous avez la languette comme ça. Et vous pouvez alors tester votre taux, votre pH pour ce qui est de l'urine ou de la salive. Donc en crachant sur une de ces languettes, ou bien en mettant un petit peu, en trempant la languette dans un échantillon d'urine, vous pourrez savoir à quel pH, alors le pH de l'urine et le pH de l'urine peut varier un petit peu. On dira qu'un pH de l'urine en général est plus acide, de toute façon un petit peu plus acide que le pH de la salive. Tester l'un ou l'autre ou les deux, et c'est bon de tester de manière régulière. D'ailleurs, c'est une bonne idée de le faire dès maintenant, et puis de pouvoir comparer après plusieurs semaines de cru, de voir comment cette acidité a changé. Alors c'est très important de pouvoir mesurer ça. Pourquoi? Parce que l'équilibre acido-basique, c'est celui qui va déterminer un petit peu votre santé à tous les niveaux. C'est un sujet très très important parce qu'on sait aujourd'hui qu'un terrain trop acide est un terrain qui va faciliter ou encourager l'installation de maladies. Il y a différents pathogènes qui vont s'installer suite à un terrain trop acide. Alors, Marie-France mentionne aussi le problème des articulations. Alors, ça, c'est aussi assez typique parce qu'un terrain acide va signifier aussi des moins bons flux de liquide dans le corps et ça va permettre l'inflammation. L'inflammation qui veut dire effectivement les problèmes d'arthrose, d'articulation, etc. Tout ça c'est lié. D'ailleurs, la plupart des maladies dites de civilisation ont derrière un terrain acide. L'autre chose qu'on peut constater, c'est la candidose. Cette candidose qui est aussi très très fréquente, hein. La candidose c'est une bactérie qui s'installe dans notre corps et qui se nourrit de sucre, donc dès qu'on mange quelque chose de sucré, ça va enflammer cette candidose qui va prendre de la place et qui va se développer puisqu'elle se nourrit de sucre. Cette bactérie se nourrit de sucre, donc en général elle est bien installée. C'est très difficile de s'en débarrasser, effectivement, mais s'en débarrasser, c'est pas vraiment nécessaire. On peut vivre en pleine santé avec une candidose du moment qu'elle est dominée ou contrôlée. Si elle est maîtrisée par les bonnes bactéries, par exemple en mangeant des produits fermentés, on va augmenter la quantité de bonnes bactéries, de probiotiques, etc. Ces bactéries-là vont tenir les bactéries de la candidose à l'écart et toutes les autres bactéries pathogènes vont les maintenir à l'écart, on va les maintenir en population inférieure. Donc, comme vous savez très bien, notre corps est constitué, à part d'eau, il est constitué, enfin la deuxième substance la plus importante que nous avons dans l'eau, dans le corps, à part l'eau, ce sont les bactéries. Ce sont ces micro-organismes qui vivent en nous. Et ces bactéries, eh bien, la santé va se décider, dès le moment, la santé va être déterminée par le fait qu'il existe plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Voilà. C'est un combat qu'elles se mènent les unes aux autres. Et notre alimentation, notre mode de vie va faciliter, la suprématie des bonnes bactéries par rapport aux mauvaises. Et la candidose fait partie de ce type de combat. Et l'acidité et le sucre vont toutes les deux, tous les deux sont des phénomènes qui vont faciliter le développement de ces bactéries pathogènes. Donc c'est très important de suivre ça de près. Je veux dire, l'acidité est aussi à la base de tout cancer. Derrière tout cancer, il y a un terrain acide. Derrière tout cancer, il y a un terrain, il y a une fort probablement une candidose. La candidose va mener à l'acidité. La candidose, quand elle devient de pire en pire, va augmenter le sucre dans le sang, peut mener même à un état de prédiabète. Et derrière tout ça, il y avait un terrain acide. Voilà. Impossible pour la maladie de s'installer dans un terrain alcalin. Donc, on va chercher à vraiment obtenir un équilibre alcalin dans le corps. Comment fait-on ça? Eh bien, justement, l'alimentation vivante est la solution idéale pour rétablir cet équilibre. Alors, ça ne va pas se faire en une journée. Ça va se faire sur le long terme, parce qu'il faut du temps au corps pour rétablir tout ça, pour que les éléments alcalinisants reprennent le dessus, pour que l'acidité petit à petit diminue et qu'elle soit éliminée du corps. Alors cette acidité va s'éliminer par voie des urines, dans les selles, dans la transpiration, tout ça, c'est par les fluides que ça va disparaître et que petit à petit l'équilibre va se rétablir. Alors j'essaie de regarder des notes que j'ai prises et un article que j'avais écrit qui peut vous intéresser. Hein. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'acidité vient essentiellement du régime moderne de nos sociétés occidentales, parce que ce régime est très riche en sucres raffinés, en produits raffinés, en protéines animales. Tous ces éléments vont donner un terrain beaucoup plus acide. Il faut rajouter à ça le stress. Le stress est très acidifiant. Ça, c'est peut-être une information qui est toute nouvelle pour vous. Et j'insiste là-dessus, parce que moi, c'est une information que je n'ai apprise que récemment, je dirais il y a une année à peu près. Je ne la savais pas au début de pratiquer le cru, et ça a beaucoup changé aussi ma manière de voir les choses. Le stress, je veux dire, on pense aux aliments comme étant la source principale de santé, mais le stress joue un rôle tout aussi important, sinon plus important. C'est pour ça que je me suis beaucoup penchée sur cette question, et vous avez peut-être vu que dans le blog, j'ai parlé récemment, j'ai écrit un article sur le ressentiment, sur les émotions négatives qu'on entretient, parce que ça aussi c'est une source de stress, hein, les émotions négatives. Mais le stress qu'on peut vivre, par exemple sur la route, quand il y a un embouteillage, quand on est pressé, quand on a des choses à faire, on n'a pas eu le temps de les finir, ou on est en retard pour aller chercher notre enfant à l'école, ou on a mal dormi et on n'arrive pas à être performant comme on voudrait. Enfin, il y a tellement de sources de stress. On s'inquiète pour un proche. Un proche est malade, on a du souci. Tout ça, ce sont des sources de stress. Alors, bien sûr, on ne peut pas éviter. Le stress fait partie de la vie. On ne peut pas éviter d'avoir du stress. L'idée n'est pas de s'en débarrasser. L'idée est de le maîtriser, de contrôler son stress. Et la manière dont on va faire ça, c'est de mettre en place différentes techniques pour calmer son cœur, calmer ses émotions, calmer son stress avec de la visualisation, avec la méditation, avec la pratique de pensée positive. Toutes ces choses-là qui vont nous aider à maintenir ce stress dans un état qui va pas faire trop de dommages oxydatifs, pas trop de stress oxydatif, ça va pas faire du dommage au niveau de nos cellules. Sachez que quand on est stressé, on crée de la cortisone va envoyer du sucre dans le sang, ce sucre que nous n'aurons pas dépensé et qui va s'accumuler aux autres sucres qu'on aura déjà consommés sous voie alimentaire, ce sucre-là va être stocké dans les cellules de gras, dans nos cellules graisseuses, ce sont les seules cellules qui peuvent stocker les choses, et c'est pour ça qu'on va accumuler du poids au milieu du corps, principalement au niveau de l'abdomen, et ça c'est un poids que tant qu'on est stressé, on ne va pas réussir à se débarrasser. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont des problèmes de poids et n'arrivent pas à se débarrasser de leur poids. Il est très très important de se pencher sur la question du stress. Ok, mais pour en revenir à l'acidité, je vous dis tout ça parce que le stress crée une acidité. Donc encore une fois, c'est important de contrôler ce stress et de faire en sorte qu'il n'ait pas une implication au niveau métabolique qui se répercute comme ça sur notre équilibre acido-basique et qui puisse contribuer lui aussi à installer la maladie. Voilà. Quels sont les symptômes? Ah oui, le stress, à part le stress, il faut rajouter aussi qu'il y a la pollution ambiante. On va contrôler ce qu'on peut de cette pollution, hein, que ce soit au niveau des ondes ou au niveau la qualité de l'eau, de l'air, etc. Donc, d'autant plus important de faire attention à ce qu'on met dans sa bouche, à ce qu'on met sur sa peau, à ce qu'on utilise comme produit nettoyant et à ce qu'on entretient dans son esprit, dans sa tête, les pensées, les émotions. Tout ça. Tout ça. C'est les toxiques. Hein. Tout ce qui est toxique, on veut essayer de s'en débarrasser, assainir tout ça. Quels sont les symptômes d'une personne qui a un pH très bas? Eh bien, les caractéristiques typiques d'une personne avec un terrain très acide, c'est un manque d'énergie, un manque d'enthousiasme, une personne qui se fatigue très vite, qui devient très vite irritée, qui souffre d'un mauvais sommeil. Les personnes à acidité élevée sont en général très sensibles au froid. Elles ont des dents très sensibles, des ongles qui sont fragiles, qui se cassent, une peau sèche. Un système immunitaire faible, affaibli, qui fait qu'on est victime de virus plus que de coutume, c'est-à-dire les rhumes, etc., la grippe hein, en période froide, mais aussi des infections récurrentes, que ce soit au niveau des bronches ou de l'appareil urinaire, voilà. Donc tout ça, ça peut être le signe d'un terrain trop acide. Si cette acidité devient chronique, eh bien, il y a des tas de maladies qui peuvent s'installer, comme je vous disais avant, qui peuvent aller jusqu'au cancer, le diabète, le syndrome prémenstruel, l'arthrose, toutes sortes d'allergies. Donc, c'est très, très important d'équilibrer ce pH. Très, très important de maintenir un fameux équilibre acido-basique. Alors, comment est-ce que vous faites? Eh bien, le corps a deux manières de faire ça, deux manières de rétablir cet équilibre acido-basique. La première manière, c'est d'éliminer les acides du corps, les acides qui sont déjà présents dans le corps. Alors cette élimination va se faire, comme je l'ai dit avant, par l'urine, par la transpiration, voire même par la respiration. Éliminer ces acides qui sont déjà stockés dans les cellules de graisse. Alors ça peut se faire aussi en faisant de l'exercice, etc., mais surtout par l'alimentation. Hein. Je vais y venir dans un moment. La deuxième manière, c'est le corps est capable de neutraliser ces acides par des minéraux alcalinisants, comme le calcium. Donc, c'est en mangeant des aliments qui sont plus riches en minéraux, c'est-à-dire ce qu'on mange dans le cru, hein, c'est toutes les feuilles vertes. On revient toujours à ce verre. Je suis toujours en train de vous parler de verre et étonnamment, tous les problèmes nous mènent à ce verre. C'est tous les chemins qui mènent à Rome. Eh bien, tous les problèmes de santé mènent au vert, vous verrez. Alors voilà, ça c'est les deux manières que le corps a de rétablir cet équilibre acido-basique. Et alors évidemment, pour essayer d'obtenir cet équilibre et de le maintenir, l'important c'est d'avoir une alimentation qui est riche en minéraux alcalinisants, tels que les végétaux, de préférence de culture biologique, qui contiennent beaucoup de calcium, de sodium, de silicium, de magnésium et de potassium. Ça, ce sont ces fameux minéraux de base qui sont alcalinisants et qui vont faire que nos cellules vont devenir plus basiques qu'acides. Alors, quels sont ces fameux aliments? Parce que la question que posait Marie-France, elle parle en particulier des lentilles, etc. Alors, d'une manière générale, est acidifiant pratiquement tout ce que l'on mange dans un régime traditionnel, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est acidique? Toutes les protéines d'origine animale, ça veut dire la viande, le poisson, les œufs et tous les produits laitiers sont acidifiants. Tous les produits laitiers, c'est le lait, le yaourt et les fromages de vache. Tous les produits issus du lait de vache sont acidifiants. Le vinaigre et certains condiments, mais aussi les médicaments, bien sûr, mais aussi les aliments raffinés et transformés, tout ce qui est transformé, tous les aliments transformés, raffinés, mis en conserve, tous les aliments qui ont été rôtis, qui ont été cuits, sont acidifiants. les graisses, la plupart des graisses, surtout les, enfin, toutes les graisses animales sont acidifiantes. Et encore, le thé, le café, le cacao et le chocolat, bien entendu, et les alcools, bien entendu, sont hautement acidifiants. Et dans tout ce qui est raffiné, évidemment, tout ce qui est gluten raffiné, tout ce qui est à base de produits blancs, hein, le sucre blanc, la farine blanche et tout ce qui est fabriqué à base de ça, y compris tous les sucrants, tous les produits sucrants du commerce qui sont industrialisés, les sirops, le fructose, enfin tout le sirop de maïs, la mélasse, toutes ces choses qui sont présentes dans les produits transformés, les produits industriels, enfin bref. La liste est très longue et vous direz, mais c'est difficile de ne pas manger des produits acidifiants. Eh bien non, vous voyez, dans le cru, je vous ai expliqué qu'il y a une abondance de produits alcalinisants parmi ces produits, mais la plupart des légumes sont alcalinisants. Mais surtout, la laitue, les épinards, les feuilles vertes sont très alcalinisants. Aussi, surtout, toutes les graines germées, dont on en revient au vert, les algues sont extrêmement alcalinisantes. Mais pas seulement, il y a énormément de produits alcalinisants. Alors là, j'ai un tableau, et ce que je vais vous préparer cette semaine, c'est ce tableau des aliments. Alors, ce sont pas, il faut faire très attention de ne pas confondre un aliment acide au goût et un aliment qui va être acidifiant pour nos cellules. C'est deux concepts qui sont différents. Tout comme on ne peut pas vraiment sentir le goût d'un aliment alcalinisant, mais les aliments dont on dit qu'ils sont alcalinisants, c'est ceux qui vont contribuer à rétablir cet équilibre une fois digérés. Ben, c'est au niveau de la digestion qui commence déjà dans la bouche que ça se passe. Je pense que je vous avais déjà mentionné le cas du citron, qui quand on le met dans la bouche, enfin le citron est acide, le goût est acide, mais dès qu'il est digéré, dès qu'il est mélangé à nos enzymes, il va avoir un effet alcalinisant. Alors, parmi ce qui est alcalinisant, mais donc il y a toutes les graines germées, alfalfa, les asperges, les artichauts, je vais vous donner une liste, hein, mais les haricots, les betteraves, les brocolis, tous les choux, les carottes, les choux-fleurs, le céleri, les côtes de bête, les endives, les concombres, les dents de lion, l'ail, le réfort, les topinambours, les algues, bien sûr, kelp, dulse, etc., le poireau, les okras, les olives, les oignons, le persil, le panais, les petits pois, les courges et toute la famille des courges, les rutabaga, les radis, les épinards, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il y a encore, le panais, oui, j'ai déjà dit, les navets, les raves, le cresson, l'herbe de blé, bien entendu, et toutes les herbes, les courgettes, les patates, et dans les fruits, les avocats, les bananes. Alors, il y a beaucoup de fruits qui sont effectivement acides au goût, mais ils ne vont pas être nécessairement acidifiants. C'est là qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Une alimentation crue va forcément rétablir cet équilibre acido-basique. Forcément. Même si vous mangez des tomates, des lentilles germées, il n'y a pas de souci à avoir, Marie-France. Les lentilles sont effectivement plus acidifiantes, mais elles ne sont pas acidifiantes comme tous les autres éléments que je vous ai dit. Parce qu'en fait, ils visent des tableaux qui vont même mettre un chiffre à côté de tout ça. Alors par exemple, d'un côté, les chiffres vont de moins 30 à plus 30. Donc plus 30, c'est alcalinisant. Moins 30, c'est acidifiant. Le bœuf est à moins 30. Tandis que les graines germées sont à plus 30, ou plus 38, etc. Les graines germées, l'herbe de blé aussi est à plus 35, 38, par là. Donc vous voyez la différence, hein, c'est énorme. Mais l'avocat, les bananes, quand elles sont très mûres, elles sont plutôt acidifiantes. Mais le gras de fruits, alors le citron, bien entendu, le citron vert, mais même les tomates. Moi, j'ai trouvé les tomates dans la série des légumes qui sont alcalinisants. Donc la tomate peut avoir un goût acide, mais elle n'est pas acidifiante, hein, contrairement à ce qu'on peut lire. Dans les graines, la plupart des céréales sont acidifiantes, comme le blé par exemple, évidemment, mais surtout le blé raffiné et le blé transformé et le blé cuit. À mon avis, les germes de blé ne sont pas acidifiants, ou en tout cas ça doit être neutre. Par contre, parmi les graines alcalinisantes, on trouve le sarrasin, le millet, et même les haricots, lima ou les haricots blancs, et aussi la quinoa. Donc vous voyez, il y a quand même des bonnes graines, des bonnes céréales qui vont contribuer à cet équilibre acido-basique. Dans les boissons, bien sûr, l'eau et l'eau de coco, l'eau de noix de coco. Ce sont les seules boissons qui sont alcalinisantes. Toutes les autres sont plutôt acidifiantes. Dans les huiles, l'huile d'olive, l'huile de lin et l'huile de chanvre sont alcalinisantes. Produits laitiers, eh bien figurez-vous, je suis étonnée, c'est la première fois que je vois ça, mais apparemment le lait de chèvre et le fromage de chèvre, en tout cas c'est un site qui mentionne ça, précise que ceux-ci sont alcalinisants. Les pains, si vous achetez du pain fait avec de l'épeautre, eh bien c'est beaucoup moins acidifiant que du pain au blé. Et enfin, dans les noix et dans les graines, alors les graines, on voit les graines de cumin, de fenouil et de sésame, et surtout les amandes. De toutes les noix, Seules les amandes sont alcalinisantes, d'où l'intérêt de faire du lait d'amande et d'utiliser des amandes plutôt que des noix qui, elles, sont acidifiantes, les noix de pécan et les noix de Brésil, etc. Mais voilà, je vous rappelle quand même que si vous mangez essentiellement cru, la part de votre alimentation qui sera occupée par certains ingrédients qui sont plutôt acidifiants que alcalinisants, je ne m'inquiéterai pas de ça si vous voulez rétablir votre équilibre acido-basique. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'essayer vraiment d'éliminer toutes ces autres choses qui ont vraiment un effet très, très acidifiant. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions sur l'équilibre acido-basique. Je vois que je me suis bien étendue, qu'il est déjà 9h30. Alors, je vais regarder si vous avez d'autres questions. Puis je sais qu'il y en avait, Aurore en a posé 2-3, donc je vais y revenir. Alors, comment sait-on que l'on a une candidose? Alors, c'est une très bonne question. Je vais noter ça. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle dans une prochaine téléconférence. Mais grosso modo, si vous avez une candidose... Alors, d'abord, je crois qu'un des signes de la candidose, c'est l'addiction au sucre. Parce que cette candidose en vous va vous demander sans arrêt des produits sucrés. Si vous ne pouvez pas vous passer de sucre, vous saurez que vous aurez probablement une candidose. La manière de le savoir pour sûr, c'est de la faire tester. Alors, il y a des laboratoires spécialisés, vous pouvez demander à votre médecin ou à des naturopathes de savoir comment tester en laboratoire par un bilan sanguin la présence ou non d'une candidose. Ça se fait par test sanguin ou test sur les selles. Il y a différentes manières et différents praticiens font différentes choses. Mais commencez par voir si vous avez vraiment une addiction au sucre. Et puis, vous pouvez d'office essayer tout simplement de diminuer les quantités de sucre que vous mangez, de manger de plus en plus cru, de plus en plus de légumes, de feuilles vertes, et de voir déjà si cette addiction au sucre ne va pas se diminuer progressivement, ce qui est le cas d'une participante qui l'a précisé là dans les commentaires. Et déjà, vous serez sur la bonne voie. Concernant l'eau, l'eau est neutre, oui. Oui, et effectivement, l'eau est neutre, l'eau pure est neutre. L'eau de source est neutre. Il y a effectivement un système qui sépare l'eau entre eau basique et eau alcalique, l'eau plus basique et l'eau plus acide. Et effectivement, on préférera boire l'eau alcalinisante et utiliser l'eau basique pour nettoyer. Mais je crois que la différence là est infime, elle n'est pas aussi importante qu'elle ne l'est avec les aliments. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit le système Brita qui fasse ça. C'est en général des appareils de filtrage d'eau qui sont un peu plus sophistiqués et qui vont effectivement séparer l'eau entre eau alcaline et eau acide. Voilà, je rafraîchis une dernière fois, voir s'il y a encore quelque chose. Non, donc on va s'arrêter là pour les questions qui sont sur en direct. Par contre, je vais vite voir Aurore qui avait dit qu'elle me remerciait pour les réponses à ses questions fournies lors de la dernière téléconférence et qu'elle avait pris le temps d'écouter tout en entier et qu'elle avait effectivement eu beaucoup de réponses. J'aurai des questions ce soir, il y a du temps, alors on va essayer de mettre 2-3 minutes là-dessus. La fermentation, comment faire? Alors, ça, je ne vais pas pouvoir y répondre en une ou deux questions. Attendons cette semaine, je vais vous partager une fiche pratique sur la fermentation. Je vais aussi vous donner une recette, donc ça vous permettra peut-être de mettre en pratique, parce que la fermentation, c'est quelque chose de relativement simple, mais il y a quand même pas mal d'étapes. Il faut contrôler l'environnement, il faut contrôler la température, il faut contrôler un certain nombre de critères pour être sûr qu'on peut bien fermenter. Dites-moi, Aurore, peut-être demain, si vous vous intéressez davantage aux boissons fermentées, comme le kombucha ou le kéfir, ou bien si vous vous intéressez à fermenter des légumes, comme faire une genre de choucroute ou une choucroute épicée, parce que j'avais l'intention de partager la recette du kimchi, qui est une choucroute épicée, mais que vous pourriez très bien faire sans épices. Donc il y a 2-3 manières de fermenter les légumes. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, hein, plus encore que des boissons fermentées, c'est ça. Ou bien tout simplement de faire fermenter le lait ou la crème d'amande ou un autre oléagineux. En faisant fermenter des oléagineux avec des probiotiques, vous allez obtenir quelque chose qui va avoir un goût un peu acidulé et donc un goût de fromage. Et là, vous pourrez vous faire des yaourts ou des fromages d'oléagineux. Si vous êtes très accro à votre fromage, ça peut être aussi une piste intéressante. Donc, je propose de faire comme ça avec la fiche pratique et puis une recette. Dites-moi simplement cette semaine, posez des questions, allez sur questions à Amy ou tout simplement sur la page recette pour dire voilà, j'aimerais apprendre à fermenter plutôt des boissons ou plutôt pour faire des fromages ou plutôt pour faire des légumes. D'accord? Ensuite, Rod aussi, j'ai l'impression que l'alimentation crue revient quand même beaucoup plus chère. Y a-t-il des astuces pour économiser? Alors oui, on a l'impression que ça revient plus cher. Alors moi, je peux vous dire de personnes qui ont qui font ça, qui pratiquent ça depuis un certain temps. D'ailleurs, il y avait un monsieur qui était présent à mon cours samedi, qui s'est mis au cru depuis 2-3 mois, et il a dit, ça revient pas plus cher, parce que finalement, on laisse tomber des choses qui coûtaient très cher. Hein. Finalement, tous ces plats préparés, industrialisés, toutes ces, la viande, évidemment, l'alcool, si vous avez abandonné ça, enfin, tout ça, ça coûte cher. Alors, même si on achète bio, je crois pas que ça revienne vraiment plus cher. Mais bon, tout va dépendre du budget dont vous disposez et de la manière dont vous aviez l'habitude de faire vos achats auparavant. Mais oui, il y a des manières d'économiser en achetant en gros, en achetant au marché, en allant à la ferme pour essayer d'avoir ces produits bio. En achetant en gros, vous pourriez faire des communautés d'achat, hein, avoir plusieurs familles qui achètent avec vous, et là vous pourriez bénéficier de certains prix de gros, par exemple pour acheter des noix, des oléagineux par 5 kilos et partager à plusieurs personnes, ça peut devenir très très intéressant. Bon, sinon, ce qui est économique dans le cru, c'est de germer ses graines. Hein. Ça, c'est très économique parce que vous pouvez manger énormément de protéines et de nutriments avec des graines germées que vous avez fait germer chez vous et pour pratiquement rien. D'autres astuces, oui, il en existe. Il y a des sites aux États-Unis spécialisés là-dedans, comment manger cru pour deux fois rien. Et donc, c'est certaines choses qu'il faut mettre en place. Mais moi je dirais que d'une manière générale, j'ai pas du tout constaté que c'était plus cher. Alors peut-être qu'au début, parce que vous avez des ingrédients de base à acheter qui sont eux plus chers, effectivement, comme du chanvre, comme des beurres d'oléagineux, etc. Mais attendez d'avancer avant de tirer des conclusions, parce que au fur et à mesure, vous allez d'abord manger de moins en moins, donc vous allez économiser aussi sur la quantité. Vous allez vous permettre d'acheter des choses vraiment de très très bonne qualité, mais sur la longueur, vous allez voir que ça va plus ou moins s'équilibrer, voire même coûter moins cher que de manger traditionnellement. À long terme, je pense que c'est à ça qu'on arrive. Donc, Aurore, si vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Et j'aimerais trouver des recettes de glace pour mes enfants. Alors, la glace, c'est très très simple, il n'y a pas besoin de recette, Aurore. La glace à la banane, c'est juste des bananes congelées qu'on a mis dans l'extracteur à jus avec un cône à broyer. Ou bien, alors les bananes, vous les pelez avant de les congeler, vous les congelez entières si vous avez un extracteur à jus de type Vitaleo. Sinon, vous les congelez en morceaux, alors il faut séparer les morceaux hein, dans le sachet, pour être sûr qu'elles vont pas, ils vont pas tous coller quand ils congèlent, quand ils vont congeler. Et après, vous pouvez le mettre dans un blender. Alors il faut que ce soit un blender bien solide, hein, le Vitamix fait ça très bien. Que ce soit un blender qui sache, par exemple, piler de la glace. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dégeler les morceaux de banane quelques minutes avant de faire la glace, et ensuite vous les mettez dans l'appareil et puis vous mélangez, et vous allez voir que petit à petit ça va vous faire de la crème glacée. C'est tout, c'est que de la banane, on ne rajoute rien du tout. Alors si vous voulez faire une glace qui a un autre arôme, vous mettez de la banane, vous pouvez rajouter d'autres fruits congelés avec. Alors les fraises ou les framboises fonctionnent très bien. Les autres fruits qui marchent bien pour faire de la glace, ça donne plutôt un sorbet, ça va être moins crémeux qu'avec la banane, ce sont par exemple les ananas ou les mangues. Maintenant, les autres fruits, s'ils sont pas assez sucrés, ça va pas marcher. Il faut utiliser des fruits qui sont vraiment très sucrés et qui ont une certaine onctuosité. Donc, ça marche bien avec ceux que je viens de vous citer. Pour faire une autre glace, des glaces à la vanille, des glaces au chocolat, alors là, il existe des recettes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un mélange avec des noix de cajou. On fait tremper des noix de cajou, on mélange des noix de cajou dans un Vitamix avec d'autres ingrédients, la vanille, des produits sucrants, par exemple des dattes, etc. On obtient un mélange qu'on va pouvoir mettre dans une machine à glace. Voilà. Alors, Aurore, si vous voulez d'une recette comme ça, dites-le-moi. Mais pour ça, il faut un Vitamix. Hein, donc, il faut avoir les outils pour faire des glaces crues comme ça. Donc, dites-le-moi et puis je m'efforcerai de partager avec vous les recettes que vous cherchez. Voilà, les glaces ou des plats qui plaisent particulièrement aux enfants. Alors ça, on va aussi noter, mais oui, je crois qu'on en parle la semaine prochaine, mais je vais quand même le noter. Plats pour les enfants, parce qu'on parle de comment manger avec le reste de la famille, donc ce sera parfait pour le sujet de la semaine prochaine. Voilà, alors je regarde vite si vous avez encore un petit message, ne serait-ce qu'un bonsoir ou merci. Ah voilà, merci pour vos réponses, dit Aurore, super. Alors oui, le kimchi c'est super bon, le kombucha aussi, les deux recettes m'intéressent en fait. Merci pour cette belle soirée encore une fois, mais je vous en prie. Alors voilà, tout le monde a répondu. Bah écoutez, je suis ravie. J'espère que cette troisième téléconférence vous aura apporté encore de nouvelles astuces, de nouvelles idées, des trucs pour tous les jours, que ça va vous inspirer à avoir une super semaine, à bien avancer. N'oubliez pas de remplir votre journal alimentaire quotidien. Je vous assure que c'est ça qui va vous aider pendant ces 30 jours. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Ça m'a fait plaisir de vous parler ce soir. continuez sur cette très très jolie voie, partagez sur le forum, j'ai toujours du plaisir à lire ce que vous avez à dire et je pense que les autres participants aussi. Et puis surtout, n'oubliez pas d'avoir du plaisir avant tout et de prendre soin de vous. Voilà, bonsoir à tous et à très très bientôt. Au revoir.